102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Là, je vais te faire rire, Pascal CV, pour débuter l'émission. Toujours à la recherche de notre Gilto.
Non! Faut que ça cesse.
Il n'est pas encore arrivé au 418-971-1021. Non, c'est une blague. Hey, bon lundi, tout le monde. Bienvenue à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin, Pascal CV. Je viens de le dire pour nous joindre. 418-971-1021. Meilleure façon de nous écouter également, l'application Boulevard sur les App Store, Google Play Store. C'est l'application Boulevard 102.1. twitch.tv/blvd/fm. Également la web radio au boulevard blvd.fm. Et Pascal, c'est fameux haut-parleur intelligent.
Oh oui, où on doit demander des BLVD, justement, 102
heures
pour se connecter.
Sinon, vous allez écouter d'autres choses. Ça doit être pas mal moins intéressant.
Hey, passe un beau week-end.
Hey, mais à toi.
Gros week-end de sport, ouais. Gros week-end. Il y a eu plein de festivités d'Halloween aussi.
Oui.
Là. Puis de repos. Hey, j'ai dormi jusqu'à... Ben là, dormi étant bien
ouais,
grand.
Ouais, vas-y donc.
Samedi, je suis restée dans le lit jusqu'à 15 heures.
Hey.
Je pense pas que c'est normal rendu à 31 ans.
Non, mais c'est pas grave. Des fois, c'est l'appel du corps humain qui dit « Hey, relax tes nerfs, le CV après être allé monter le Kilimanjaro. »
Je me sentais comme, tu sais, quand on était ados, là.
Oui.
On venait qu'à veiller tard, nos parents savaient pas trop.
Hey,
puis
oui.
On arrivait, puis finalement, on dormait jusqu'à... Je ne sais pas si c'est un record personnel, mais clairement...
Ouais.
Ça m'a perturbé, mais voilà, mm-hmm. C'est fait.
Moi, mon Elliot a 18 ans. C'était hier,
c'est
sa fête.
C'est fait. Comment ça a été?
Ah, c'était le fun.
Oui?
C'était super le fun. Ah oui, puis vraiment, Cynthia, la mère d'Elliot, avait organisé vraiment de quoi de cool à la... chez elle. On est allé, décoration, plein de photos d'Elliot, des vieux chandails de sport qu'il a porté. Puis non,
okay,
la thématique
donné,
était vraiment cool. Ah, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Toute scène qu'il a faite. Ah non, non.
On
le
la salue.
Ah, oh, on la salue, certain. Le mérite lui revient à 100%. En fin de semaine, les amateurs de sport ont trippé aussi. Pascal CV, écoute ça.
Jim here struggles. Barcher sends a towering drive. Right center field. Kiss it goodbye.
Ça, Pascal, c'est un moment historique, OK? Addison Barcher, voltigeur et joueur de troisième but pour les Blue Jays de Toronto, ne jouait pas dans le premier match parce que c'est un lanceur gaucher qui est au monticule, Blake Snell, un des meilleurs de la ligue,
okay.
Puis il est vraiment fort contre les frappeurs gauchers. Alors là, on avait mis un joueur à sa place. Quand on est arrivé avec le releveur Sherman, qui lance de la droite, le gérant il a dit à Barger, « Va-t'en frapper, mon homme. » Il y avait trois hommes sur les buts, c'était 5-2 pour les Jays, puis il l'a catapulté dans le champ droit pour un grand chelem. Il a vidé les sentiers, c'est devenu 9-2. Dans l'histoire du baseball majeur, jamais un joueur en série mondiale, comme frappeur suppléant, comme lui a fait, avait frappé un grand chelem. C'est une première historique qu'on a vécue vendredi.
Est-ce que les gens le savaient sur le... Tu sais, toi, je veux dire, c'est un peu spécial.
Sur le moment, non. Tu sais, même les commentateurs, je l'ai écouté aux réseaux anglophones, ont
ouais.
Dit... Faut qu'on ait vérifié si c'est déjà arrivé dans l'histoire. Et là, la manche suivante, ils sont revenus avec justement l'information en disant « On vous le dit, c'est une première, ça n'était jamais arrivé. »
Extraordinaire!
Donc, on a vécu un moment historique. Les Jays l'ont apporté vendredi 11-4. Malheureusement, perdu samedi 5-1. Mais là, ça se poursuit ce soir à 20h. Jays-Dodgers.
Cette année-là, pense-y, là, ou dans les deux dernières années, je ne vais pas me tromper, mais il y a quand même eu beaucoup, comme la Coupe de la Nation, je ne sais pas quoi, hockey.
Oui.
Il y a beaucoup de moments de sport très puissants.
Vraiment?
Que tu sois fan ou pas, qui ont fait en sorte que ça a roulé, dans les bars sportifs, mais aussi dans les chaumières. Puis ça nous a, si on a de la misère avec les tarifs économiques puis avec notre commerce actuellement au pays, au moins rassemblés au niveau du sport.
Puis là, samedi, si les Jays ont perdu, ben, les amateurs de sport se sont retournés vers ce joueur du Canadien qui ne cesse de nous impressionner. Demi-god, les partisans l'appellent
Demi-god.
Comme ça.
Demi-god, oh
tellement
là.
Il est sensationnel sur la patinoire. Un but, deux passes samedi. Victoire du Canadien 4-3. Les partisans du CH sont en feu. Prochain match du Canadien demain soir 22h30 contre le Kraken de Seattle à Seattle. Bref, Autre victoire du Canadien. Je suis en train de penser que le Canadien va être une des meilleures équipes de la Ligue nationale.
Ça ah ben là, là, on est-tu trop tôt en saison? C'est-tu ben, je pense un genre qu'on est de lubie de fan du
Mais
Canadien?
C'est parce que l'offensive est tellement impressionnante.
Est-ce que vous croyez aux séries, même quand ça perd pendant les premiers... Tu sais, je veux pas, ouais. je veux vraiment pas vous porter malchance, là, au contraire. Mm-hmm. Là, je sais que c'est quoi triper quand son équipe gagne. Chose que je n'ai pas vue chez les Bengals depuis plusieurs années maintenant.
Et hey, puis hier, ils l'ont échappé contre les Jets de New York qui n'avaient pas encore gagné, Pascal.
Je m'attends à plus rien, là, honnêtement. L'espoir fait vivre, je continuerai de les appuyer.
Ils ont accordé 23 points aux Jets de New York qui avaient de la misère à marquer un toucher au quatrième quart.
Tu te poses souvent la question au foot, est-ce que ton corps arrière fait l'équipe? Des fois, tu vas répondre ouais. oui, des fois, tu vas répondre non. Mais clairement, dans les deux cas, quand tu réponds oui ou non, c'est franc.
Exactement.
Pour les Bengals, c'est assez franc ouais. en ce moment.
Alors, ça va très mal pour les Bengals. Mais bref, les partisans oui. du Canadien sont en liesse. Mes gars, arrête pas de m'énerver avec ça. Max Larouche aussi, Yannick Marceau. Bref, la province de Québec est derrière son CH.
Avec bonheur, tiens.
Avec très grand bonheur. Pascal, avant qu'on passe, parce que tu nous as sorti les extraits de Christian Dubé mm-hmm. hier, passage à Tout le monde en parle, tu sais, c'est la grosse nouvelle encore, cette loi spéciale-là qui a passé en fin de semaine. Est-ce qu'il y a deux, trois petites nouvelles qu'il faut surveiller avant?
Bien, plus que ça. C'est ça l'histoire.
Ben,
parce
ouais,
que y en a une qui vous concerne aussi en fin de semaine. Pour plusieurs, vous ouais. avez tenté de voter. Ça n'a pas été hey, facile.
Oui.
Entre autres, les lignes étaient extrêmement longues.
35 minutes, mes parents.
Vois-tu? Sûrement quelqu'un peut gagner au 88-971-1021. Gagner dans le temps d'attente que ça a pris pour
oui.
pouvoir voter.
Écrivez-nous.
Il y a des choses aussi qui sont venues à mes oreilles de certains auditeurs qui, en passant, quand vous faites ça, on apprécie énormément. On peut nous contacter de toutes les manières. Mm-hmm. Quand on n'est pas en émission, nos réseaux sociaux personnels sont très, très efficaces. Je vous rappelle, mon nom, c'est Pascal CV. C'est de même sur toutes mes plateformes. Puis il y en a qui l'utilisent, ce courant-là. Entre autres, Jeff, en fin de semaine, je me suis fait écrire par un auditeur
ouais.
qui, lui, se questionnait, oui, sur les temps d'attente, mais aussi sur le fait que, hey, il y en a plein qui n'ont pas encore reçu leur petit papier pour aller voter. Et je te lis un message. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu leur carton avec les informations
oui,
pour le pôle de votation. L'autre point, je me suis posé une question, mais le vote est censé être anonyme. La réponse
ouais.
est oui. Il n'y a pas rien qui devrait être différent
non.
de oui là-dedans. Mais il dit, moi, on a inscrit mes initiales sur le bulletin de vote. Je n'ai pas trop compris
ben oui, pour quelle raison?
Pourquoi. J'ai posé la question, il n'est pas allé plus loin en disant qu'il n'a pas demandé, mais il était très, très surpris. Je pense qu'il figeait un peu en voyant ça.
Ouais.
Mais s'il y a des choses comme ça qui vous sont arrivées, n'hésitez pas à nous en parler. Mm-hmm. Bon, est-ce que je peux prouver ce que l'auditeur nous dit? Non, mais je peux quand même poser la question à notre auditoire. On dit que 16,6% des électeurs qui sont prévalus de leur droit de vote par anticipation.
C'est très bon.
Hier, à Québec seulement. Alors, c'est énorme. Ça, c'est en vue du scrutin municipal, vous savez, le 2 novembre. On aura une émission spéciale à partir de 19h
okay,
ici.
Oui.
Et ça marque une hausse par rapport aux précédentes élections dans la capitale. Alors, bien que vous soyez peut-être tanné d'en entendre parler des rififis, de la politique un peu maigre qu'on nous sert, vous avez été nombreux à aller voter par anticipation en fin de semaine. Ça vous tente de commenter tout ça? Eh bien, nos canaux de communication sont ouverts. Sinon, Mark Carney fait encore réagir. On compte rencontrer le président chinois cette semaine. Pourquoi? Ben parce que, je veux dire, le canal de communication avec Donald Trump est complètement fermé.
Il l'a dit, on ne négocie plus avec le Canada.
La Chine avait déjà dans la mire Carney. Carney avait déjà la Chine dans sa
oui.
mire en quête de nouveaux partenariats. On peut se poser plein de questions. Faut faire attention de ne pas en signer des rapides selon les experts juste parce qu'on a besoin de partenaires. La Chine, vous savez, c'est controversé. La façon d'exercer
très
aussi la sécurité autour de ce pays-là, ça ne fait pas deux discussions. Ça en fait une quand on vient de parler de partenariat, même quand c'est en affaires. Alors voilà, guerre commerciale qui continue de sévir. On affirme que même des publicités ont changé. Le premier ministre du Canada qui affirme qu'Ottawa puis Washington étaient près d'un accord avant que Donald Trump mette fin aux négociations la semaine passée. Puis vous savez, ben là, on a fait des publicités, entre autres, qui ont été très pointées du doigt par Donald Trump. Écoute, on pensait pas que ça allait se rendre à ses oreilles,
non.
Puis ça s'est rendu.
On a réutilisé le discours de Ronald Reagan et ça n'a pas fait l'affaire du président républicain.
Rien pour aider quand on parle de courant de nouvelles, mais là, il y a un record de démissions dans le réseau scolaire. C'est 1300 enseignants permanents qui ont quitté leur poste l'année passée, seulement dans les écoles publiques. Alors, ce n'est qu'un décompte pour les écoles publiques. Et il y a une directive de Québec, vous savez, qui est encore difficile là, de reconnaître les raisons qui mènent à ces départs-là. Chose qui avait été énormément jasée. faites un registre du pourquoi les enseignants démissionnent. On veut connaître les raisons.
Et on n'en a pas.
Et on n'en a pas de registre. Alors, on se demande, ben là, comment vous voulez bien faire vos choses au niveau du ministère de l'Éducation quand vous n'êtes pas capable de mettre le doigt sur le pourquoi les démissions parmi les enseignants permanents ont augmenté de 67 % depuis 5 ans.
C'est énorme dans un moment de pénurie de main-d'œuvre, dans un moment où on a de plus en plus d'enseignants non qualifiés. Ce matin, d'ailleurs, on a parlé avec Richard Bergevin, qui est le président de la Fédération des syndicats d'enseignement. C'est sur le blvd.fm. Ça faisait partie d'une de leurs 10 recommandations de dire hey, il faut absolument regarder pourquoi nos enseignants quittent, puis après ça, venir corriger les lacunes.
C'est le jour de la marmotte. Je suis capable d'affirmer que ça fait 3 ans qu'on le demande au niveau des enseignants, des directions même, puis on ne l'a pas fait. Chose très étrange. Et je termine avec une nouvelle qui va peut-être parler à certains buveurs de café si vous avez une machine Keurig. Il y a un recours collectif, une action collective canadienne qui se veut intéressante pour vous, mesdames et messieurs. Keurig pourrait rembourser jusqu'à 50 $ à tous les Canadiens qui ont acheté leur capsule puis leur machine à café depuis 2016. Ça, c'est du monde quand même, là.
Fait que là, moi-même, si c'est brisé, je pourrais faire je pourrais demander mon argent.
50 $ parce que les consommateurs se disent lésés. Pour les petites dosettes à usage unique que Keurig, pendant toutes ces années, demande et disait, en fait, pouvoir être réutilisable. Alors, ça pourrait faire en sorte que vous ayez un remboursement là, jusqu'à 7 $ sans preuve d'achat, puis 50 $ avec des factures. Ça vous tente-tu d'embarquer là-dedans pour 7 $ si vous n'avez pas votre preuve d'achat? Ça vous concerne. Mais le demandeur et le défendeur ont conclu une entente qui obligerait Keurig à verser un montant total de 1 850 000 $ canadiens dans un fonds de règlement parce que, justement, il y a eu une amende en 2024. L'entreprise a dû payer 1,5 million de dollars US pour de fausses déclarations concernant le recyclage des petites capsules.
Aïe, aïe, aïe. Pascal, tu sais qu'on a les meilleurs auditeurs?
Oui, toujours.
Et là, Annette nous écrit, puis il y en a plusieurs qui nous ont écrit, mais je prends le texto d'Annette. Le scrutateur doit mettre ses initiales sur le bulletin de vote pour être sûr que la personne remette le bon bulletin de vote.
Alors, est-ce que le scrutateur avait les mêmes initiales que notre voteur? La question se pose.
Peut-être.
On avance. Dans notre demande.
Ouais, d'autres questions qui se posent, c'est au niveau du ministre de la Santé, Christian Dubé, de sa loi spéciale, la loi numéro 2, qui ne fait pas du tout l'affaire des médecins. D'ailleurs, Pascal Renault, médecin omnipraticien, était de passage à Marceau le matin ce matin pour nous expliquer justement comment ça va venir impacter la rémunération. Et là, Christian Dubé, lui, était à Tout le monde en parle hier soir.
Oui, puis ça a fait beaucoup réagir. Je te dirais... On en parle parce que si vous avez manqué ça, ça reste que c'est la nouvelle. La nouvelle importante. Christian Dubé est difficile à avoir dans un genre d'air public comme ça pour une entrevue. Travaille fort. On sait à quel point c'est difficile d'être ministre de la Santé.
Hein? Exactement. Est-ce qu'il a expliqué pourquoi c'était si sévère? Parce que c'est ce que les médecins disent, même des spécialistes comme Marc Rangé, qui disent « on sort pas d'allure, il a sorti la matraque bien raide. »
Première question qu'on lui a posée.
Ça n'a pas très bien commencé, cette négociation-là. Il y a des gros mots, des mots pas gentils qui ont été dits des deux côtés. Puis moi, je l'assume qu'on n'a peut-être pas été correct au début en disant certaines choses. C'est sûr que ça l'a pas aidé. Alors qu'aujourd'hui, ça l'a beaucoup teinté les négociations.
Mais vous n'avez pas été correct au début, mais là, vous êtes correct en faisant une loi spéciale.
Non, bien écoutez, M. Lepage, je veux juste continuer.
Ouais.
Et ce que je veux dire, c'est que après un certain temps, quand qu'on négocie, puis on est même allé jusqu'en médiation pour voir si on pouvait trouver des solutions. Je pense qu'il y a vraiment comme une urgence d'agir pour plusieurs raisons, notamment pour les patients, parce que là, ça fait longtemps, ça fait plus que 2 ans que les conventions sont terminées. Puis il y a des gens qui attendent, puis il y a des gens qui attendent pour une chirurgie, qui attendent pour des rendez-vous. Et un facteur aggravant, il y a eu toute la question des étudiants, des moyens de pression sur les étudiants.
Écoute, la conversation qui a eu lieu à Tout le monde en parle hier soir fait beaucoup réagir parce qu'on a l'impression de ne pas avoir eu beaucoup de réponses à nos questions. Christian Dubé s'est défendu d'avoir passé sa loi sous bâillon parce que c'était une mesure extrêmement importante à faire et régler là, parce qu'il disait que tout le monde en souffrait au niveau du système de santé, mais il manquait beaucoup de chair autour de l'os. Il dit qu'il va vouloir l'expliquer aux citoyens pour la suite, mais il a assurément eu à défendre le fait qu'elle ait coupé dans le salaire des médecins.
On ne fait pas ça pour couper le salaire. C'est effectivement un montant. En ce moment, là, il y a une enveloppe de 9 milliards pour les deux fédérations. Je résume ça. Là. Mm-hmm. Puis on a dit, on va prendre une retenue de l'ordre de 15 %. Puis sans rentrer trop dans les chiffres, le premier 5 %, on va le retourner tout de suite. Il n'est pas conditionnel. Parce qu'on veut, puis c'est ça que les médecins demandaient, que ça soit géré localement par des médecins. Alors, le premier 5 % on va le payer de toute façon. Donc, on parle de 10 % Puis ce 10 %-là, il est relié à des cibles. Puis comme je le dis, l'objectif, parce qu'on les connaît, les cibles, ils ont été discutées, elles sont maintenant graduelles sur plusieurs années. Alors donc, ce que je souhaite, c'est que ces gens-là, les médecins, puissent avoir la pleine réalisation de leur compensation, mais en autant que les objectifs soient atteints.
Okay. Yep. On veut l'atteinte des objectifs. On clame qu'on fait cette politique-là, qu'on a mis en place ce projet de loi-là vraiment pour les patients. Mm-hmm. À plusieurs reprises, il dit à quel point il a du respect pour les médecins puis qu'il ne fait pas ça dans un but de déplaire ou dans un but d'attaquer, mais qu'il disait que cette refonte-là devait se faire et elle est extrêmement difficile à appliquer. Donc, voilà pourquoi on le fait de cette manière-là. Il a parlé, bien sûr, de la frustration des médecins. Écoute, avant d'arriver à Tout le monde en parle, hier, il y avait une grande manifestation devant les bureaux de Radio-Canada.
400 personnes devant les bureaux de Radio-Canada. Donc, des médecins qui sortent avec leur pancarte. Moi, c'est jamais vu pour moi.
Pour la majorité des gens, en fait, c'est la première fois qu'on voit ça.
Exactement. Donc, on écoute Christian Dubé par rapport aux médecins qui sont fâchés.
J'ai absolument rien contre les médecins. Au contraire, j'ai beaucoup de respect. J'ai passé la pandémie avec des médecins qui m'ont beaucoup aidé. Je vous dis, j'ai dans ma famille... Donc, je veux juste être certain là, que je ne fais pas ça contre les médecins. Mais il y a une chose. Moi, je sais que je fais ça pour les patients. J'ai 1,5 million de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille. J'ai 200 000 maladies chroniques. 200 000. Et ce qu'on a fait là, au cours des derniers mois, les ajustements qu'on a fait, on a dit on va vous demander de le faire de façon réaliste, de façon graduelle. Alors, je comprends en ce moment, et je le répète, c'est un changement majeur dans la façon de faire. Puis quand on va avoir le temps dans les prochains jours de bien l'expliquer, je pense que les gens, moi je leur demande seulement dans les prochains jours, prochaines semaines, de prendre le temps de bien comprendre pour ne pas prendre une décision précipitée puis de voir un peu comme les gens ne croyaient pas aux autres gros changements qu'on a fait dans le réseau. Alors, les changements qu'on fait finissent par porter fruit.
Mais vous n'avez pas peur que des cliniques privées prennent avantage de l'insatisfaction des médecins puis qu'ils viennent les recruter? C'est ça qui se passe, là, présentement. Qu'est-ce que vous allez faire s'il y a une vague de départ? Puis, bien, je suis pas mal sûr qu'elle va arriver, en plus.
Le projet de loi prévoit aussi qu'on veut se préparer s'il y avait justement cet exode-là pour qu'il n'arrive pas au privé. Alors, on était très clair dans le projet de loi qu'il y a une méthode pour le faire. Et au besoin, on va s'en servir.
Le problème, et on a Marc Tanguay, justement, porte-parole là, en matière de santé, là, qui sera avec nous dans quelques instants pour le Parti libéral. Le problème, c'est de la façon que ça a été fait. Au lieu de faire un projet de loi, puis d'entendre les gens en commission parlementaire, d'ajuster la loi et d'arriver avec ta loi en tant que telle, qui était la loi 106, on a fait une loi spéciale. Et là, cette loi spéciale-là, bien, il n'y a personne qui peut aller la questionner, il n'y a personne qui peut aller la modifier.
Une fois que c'est passé sous baillon, bien, c'est passé, puis c'est dans l'obligation.
Et là, dans cette loi-là, en plus, on dit vous n'avez pas le droit de contester, vous n'avez pas le droit de partir. Fait que là, on restreint les médecins énormément. Ça ressemble à un régime autoritaire.
Mais écoute, pourquoi la question, la première était pourquoi vous êtes si sévère, pourquoi ça a été si sévère? Ben, Christian Dubé a essayé de s'expliquer en disant ben, parce que depuis le début, ça a été sous haute tension. On savait qu'on s'en allait droit dans le mur. On n'était pas capable d'avoir des négociations. Il y a cette partie-là aussi qui est importante. Est-ce que, puis on a souvent demandé du courage politique hein, dans certains ministères. On le sait, Christian Dubé a dit qu'il n'allait pas se représenter. Est-ce que c'est plus facile d'y aller de façon autoritaire quand on sait qu'on ne reviendra pas en politique?
Oui, mais à moins qu'il m'arrive quelque chose de bien plate, je vais être encore en vie, puis je vais voir ce qui va se passer, parce que moi aussi, je vais en avoir besoin d'un médecin à un moment donné. Là. Je vais avoir besoin d'un réseau.
Vous n'avez pas, vous non plus?
Bien, moi, j'en ai un, je suis chanceux. Je l'ai eu un il y a 2 ans.
Pensez-vous que vous allez l'avoir demain?
Bien là, j'essaie de ne pas être malade ces temps-ci. Oui, là, mais j'ai tellement de... là, elle doit m'entendre dire ça. Là.
Je suis sûr qu'elle vous entend.
Je suis sûr qu'elle m'écoute ce soir, ouais. Mais je le répète, j'en ai beaucoup dans mes amis, j'en ai beaucoup dans ma famille. Puis ces gens-là, je pense qu'ils savent que je le fais pour les bonnes raisons. C'est pas facile, ce que je fais. Mais je reculerai pas parce que je pense qu'on fait la bonne chose.
Il y a un petit quelque chose là-dedans qui a été effleuré, puis je pense que tout le monde va pogner probablement le mort là. Il y a quelque chose de très particulier qui a été mis en place et qui a été voté sous baillon. Mm-hmm. On va récompenser, sinon donner vraiment le titre d'un genre d'espion au sein de plusieurs corps, en fait, au sein des hôpitaux, pour essayer de voir s'il y a des gens...
Un délateur!
Un genre de délateur, là. Alors, y a-t-il des gens qui complotent entre eux? Y a-t-il des gens qui en parlent entre eux? Y a-t-il des gens qui vont démissionner et qui vont faire en sorte que d'autres vont démissionner parce qu'ils se sont parlé? La chose qu'on ne veut pas au gouvernement, c'est que ça arrive. Et pour ce faire, il y aura délateur nommé, qui va être un petit peu la petite police, là, le flic du mail, flic de l'hôpital. Et ça, ça fait beaucoup jaser, mais hier, dans l'entrevue, je suis restée sur ma faim parce qu'on n'en a pas parlé.
Non, en effet, Pascal Renaud nous en a parlé ce matin, justement, puis avec cette nouvelle structure-là. Écoute, il y a trois strates de nouvelles structures pour qu'on en arrive à dire si un médecin a tort ou n'a pas tort. Puis dans un exemple qu'il donnait, c'est il disait, il y a un médecin à l'urgence qui est malade, qui a quoi que ce soit. Fait que moi, je fais pas mes rendez-vous dans ma clinique, je m'en vais à l'urgence parce que c'est là qu'il y a urgence, on s'entend. Mm-hmm. Ben, il pourrait perdre 40 % de sa rémunération parce qu'il n'a pas fait ses rendez-vous à cette clinique. Puis on pourrait lui faire perdre 100 % de son salaire à l'urgence parce qu'il est allé à un endroit où il n'était pas attitré. Donc le médecin, là, il ne peut plus utiliser sa jugeote, là. Il faut qu'il demande au ministre, « Hey, je peux-tu me déplacer? »
Puis il faut qu'il prouve qu'il est non coupable de ça. Ça veut dire que si toi et moi, on est médecin puis on décide de démissionner en même temps, mais que jamais on s'est parlé, il va falloir prouver que jamais on s'est parlé. Ouais. Parce que ce qui va être pris pour acquis, c'est que si on a démissionné en même temps, on va assurément penser qu'on a comploté. Ça, c'est particulier aussi.
Exactement. Donc, c'est très particulier parce que... On est dans un système où les droits et libertés priment. Là. Donc, si un médecin dit « Hey, ça me convient plus ici au Québec, la façon qu'on va me payer, de la façon qu'on me traite, puis je m'en vais en Ontario, mais là, on le restreint. Non, tu n'iras pas en Ontario. » C'est très, 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 très... On pousse la limite très loin.
Pour répondre à une question d'auditeur qui demande si un nouveau gouvernement pourrait renverser cette loi-là, je vais vous répondre oui. Donc, un nouveau gouvernement peut renverser une loi, y compris une loi qui a été adoptée grâce à un baillon, mais ça demande de faire adopter un nouveau projet de loi d'abrogation. Donc, nouveau projet qui doit être travaillé avec un projet, un processus législatif normal derrière tout ça. Donc, c'est avec des procédures quand même étoffées, comme d'habitude en politique.
Et c'est justement la question qu'on va aller poser à Marc Tanguay, qui est au bout du fil, député de La Fontaine et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé pour le Parti libéral du Québec. Monsieur Tanguay, comment allez-vous?
Ça va très bien. Bonjour, Jeff.
Salut. Monsieur Tanguay, est-ce que le Parti libéral s'engage à scraper la loi spéciale numéro 2 si le parti est élu au pouvoir aux prochaines élections?
Oui, tout à fait. Pourquoi on s'engage à scraper cette mauvaise loi-là? Parce que c'est une loi matraque, c'est une loi liberticide qui donnera pas plus non seulement d'accès aux soins, mais va les diminuer. Lourdeur administrative sans nom. Pour vous donner le top 4 là, des choses qu'on a contre ce mauvais projet de loi-là. Vous avez sûrement plusieurs questions, je vais suivre vos questions, mais on pourrait en parler pendant des heures tellement qu'il y a beaucoup d'angles morts sur un texte qui nous a été enfoncé dans la gorge. Moi, ça fait depuis 2012 je suis député, là. J'avais jamais vu un baillon aussi garroché, une loi qu'on n'avait même pas pu lire avant de se la faire mettre en dessous du nez. On avait 1h15 pour lire 214 articles. On a été capable de poser certaines questions, mais là, avec les heures et les jours là, devant nous, on va se rendre compte tout ce qu'il y a de mauvais dans ce projet de loi-là.
Monsieur Tanguay, je pourrais vous parler de la question simpliste et dire, ah, êtes-vous content qu'enfin Christian Dubé soit peinturé comme un mauvais ministre de la Santé quand jusqu'à maintenant, on disait qu'il travaillait fort puis ça fonctionnait bien? J'irai pas là. Où je vais aller, par contre, c'est le ministère de la Santé, ça a toujours été extrêmement difficile. C'est un paquebot qui ne tourne pas. Chaque ministre de la Santé, tout parti confondu, ont eu du mal à partir avec bien des gens quand ils ont essayé de changer des choses à l'interne. Est-ce que les gens qui exercent au sein du ministère de la Santé ont trop de pouvoir, puis est-ce que c'est par des lois Bayon qu'on n'a pas le choix de faire changer les choses quand on voit que rien n'a changé auparavant?
Bien, là, c'est une loi pas contre le ministère de la Santé, c'est une loi contre les médecins. C'est une loi matraque. Puis vous n'avez pas le droit d'arrêter d'enseigner, pas le droit d'arrêter de faire de la recherche. Puis vous devez faire, là, vous autres, les médecins, là, vous allez faire une médecine McDo. Vous allez faire du volume, du volume, du volume. Puis en passant, ce qu'on vous donnait pour inciter à faire de la télémédecine en région, ça, c'est bon, bien, ils coupent ça. Donc, je reviens à votre question. François Legault, il a augmenté le nombre de fonctionnaires au ministère de la Santé. Il est arrivé au pouvoir, il y a eu, en 2018, il en a ajouté 12 000 de plus dans l'ensemble de l'État, puis une bonne partie de ça, c'est au ministère de la Santé. Je continue sur votre question. Sous l'angle de la paperasse, c'est épouvantable la lourdeur administrative qui va rajouter, parce que vous dites, ce que je payais au médecin, ben il y a un 15 % que je vais pouvoir couper, puis là, il y a tous des échanges qui vont avoir lieu, là, aller-retour avec les groupes de médecins, avec la Régie d'assurance maladie, avec Santé Québec. J'ai posé la question à Christian Dubé, combien de fonctionnaires de plus vous avez prévu ajouter? Il a dit non, Il n'y a aucun fonctionnaire de plus, ça va se faire tout seul. Alors, c'est une lourdeur administrative. Puis, je vais terminer là-dessus, là, sur le ministère de la Santé. Vous avez vu le papier vendredi qui est sorti de Tommy Chouinard vendredi matin, où il y a deux fonctionnaires, entre autres un cadre supérieur, Martin Ford, qui a dit, écoutez, vous faites la mauvaise approche avec votre projet de loi. Il a été sacré à porte. Lui, puis une autre de ses collègues, parce qu'il avait osé contredire le ministre à l'interne. Alors, il les a sacré à porte. Il a même dit, et je le cite, dans les deux dernières années, il parle de Christian Dubé, il n'écoute plus personne, il est la voix de la vérité. Ben c'est ça notre problème.
Je vais reposer ma question. Est-ce que le ministère de la Santé, parce que ça a toujours été difficile, peu importe le gouvernement qui a été au pouvoir, se doit à un moment d'être aussi autoritaire, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe là, en ce moment, on comprend très mal, pour essayer de changer le paquebot de bord? Y a-t-il quelque chose qu'on ne comprend pas du ministère de la Santé? Parce que là, on semble très sévère, très autoritaire, presque dictatorial. Est-ce qu'on n'avait pas le choix de passer par là?
Vous dites dictatorial envers le ministère de la Santé?
Non, envers les gens qui travaillent pour changer la donne, changer les choses, parce qu'on sait que les syndicats sont forts et la façon de faire est implantée, puis c'est très difficile de faire changer des choses.
Oui, mais là, ce qu'il aurait dû faire, c'est d'écouter les experts. Encore une fois, on veut que les citoyens aient davantage accès aux soins de santé. Pour ce faire, il y a un rapport d'experts qui a dit, ben mettez-vous tout autour de la table. Puis, je parle pas des fonctionnaires là qui brassent du papier à Québec. On parle des professionnels, les infirmières, les médecins, les travailleurs sociaux, les psychologues, les psychiatres, nommez-les tous. Le rapport d'experts a dit, mettez-vous sur la table, ciblez les bonnes pratiques, puis nous, on va vous soutenir là-dedans pour que vous puissiez voir plus de personnes, puis on va parler de critères de qualité, pas juste du volume. Ça, Christian Dubé, avec sa loi Matraque, ça aurait été un petit peu plus long faire ça, mais ça aurait été sacrément plus efficace, a décidé d'avoir un gain politique dans sa dernière année. Christian Dubé ne se représente pas. Il a dit, ben moi, je vais mettre au pas les médecins, puis je vais tout le mettre l'obligation, je ne lui donnerai pas plus de ressources, puis moi, je vais être capable de faire du volume. Puis, voyez-vous, dans mon bilan, il y a plus de Québécois qui ont techniquement et théoriquement accès à un médecin, mais on n'aura pas plus les services. Alors, sur votre question, là, c'est le problème dont on parle par rapport au bâillon, là, je sais qu'il y a des enjeux au ministère de la Santé, là, puis j'en ai nommé, mais c'est carrément partir en guerre contre les médecins, ça va être démobilisateur, puis ça va nuire à l'accès aux soins, clairement.
Croyez-vous que les médecins vont demeurer au Québec comme Pablo Rodriguez l'a demandé lors de votre congrès en disant patienter un an où on va vivre une exode? On a énormément de médecins là, qui sont déjà partis, là. Ça a flirté dans les médias, là. Au moins une quarantaine
ouais.
aurait déjà quitté.
Oui, puis il y a d'autres médecins qui vont partir. Moi, il faut que je fasse attention à mes paroles, parce que l'aspect liberticide de ce projet de loi fait en sorte que si quelqu'un incite les médecins à quitter ou à diminuer l'enseignement et la recherche, ben vous pourriez être poursuivi en vertu de cette loi-là.
Oui, exactement. On a reçu Pascal Renault, président de la Fédération des médecins omnipraticiens, président à Québec, et c'est ce qu'il nous le disait en entrevue ce matin. Il fallait qu'il fasse très, très, très attention.
Ouais. Alors, il faut faire attention. Je dis ça avec beaucoup d'ironie, mais j'aimerais bien ça voir Christian Dubé et François Legault me poursuivre pour essayer de me faire taire. Je dis ça avec beaucoup d'ironie. Mais il faut être cabochon, puis il faut faire fi des libertés essentielles, fondamentales de tous les Québécoises et Québécois en mettant ça dans son projet de loi. Puis on a eu pendant quelques minutes durant la nuit là, l'occasion de le questionner notamment sur les articles 131, 132, 133. C'est quoi ça? Ça fait dire que si il y a trois médecins qui, de façon concomitante, à peu près dans le même laps de temps, quittent le réseau de la santé, il y a une présomption qu'ils se sont concertés puis ils peuvent faire face à des poursuites. Imaginez-vous donc dans quel régime on est rendu avec François Legault. Alors, tout ça pour vous dire que c'est une mauvaise loi qui vient démobiliser. Moi, un matin, je parlais à un de mes médecins dans mon comté. Il a dit, écoutez, la pression, la frustration... ça va pas empêcher des médecins là de quitter. Une statistique qui parle tellement. Savez-vous qu'en Ontario, il y a 2300 médecins qui ont été formés au Québec? Posons-nous la question, pourquoi ils ont sacré le camp? Ben, pensez-vous qu'avec cette loi-là, on va non
seulement... Non, mais on avait trouvé la solution, ça, M. Tanguay. On les oblige à faire 5 ans au Québec maintenant.
Ouais. Ben, ceux qui sont partis... Croyez-moi sincère qu'ils ne vont pas revenir. Ils n'auront pas le goût de revenir. Puis ceux qui vont vouloir quitter, ben ils vont quitter.
Mais moi, je suis une page là, sur Facebook qui s'appelle Spotted Soigner au Québec depuis plusieurs jours maintenant, puis on voit beaucoup de témoignages en ce sens-là. Il y en a un qui est sorti même il y a 9 minutes exactement, qui dit que c'est une infirmière et puis que son mari est médecin, puis que pour la première fois, il pense réellement à regarder les offres d'emploi ailleurs. Chose étant, ma question est la suivante pour vous, M. Marc Tanguay. Christian Dubé se défend en disant qu'il travaille pour les patients dans ce projet de loi-là et non par manque de respect au niveau des médecins. Est-ce que, selon vous, on a pris les médecins un peu sous grippe en ce moment parce que c'est une strate de la population qui est souvent pointée du doigt par la hiérarchie, par le salaire, les conditions, des gens qu'on dit bon, beaucoup plus heureux que d'autres par, justement, cette expérience-là professionnelle qui est peut-être un petit peu rémunérée au-delà de bien d'autres personnes dans le monde, mais est-ce que vous pensez qu'on a pris ce corps de métier-là parce que s'en prendre peut-être aux préposés bénéficiaires, aux infirmiers, infirmières et aller brasser ça aurait été très mal vu?
François Legault, ça fait des années qu'il, dans son discours politique, là, il veut partir en guerre contre les médecins. C'est clair que les médecins gagnent de très bons salaires. C'est clair qu'on pourrait, oui, avoir des gains d'effectivité, être plus efficace, d'efficacité, mais c'est pas en disant... Moi, à très court terme, un gouvernement en perdition, hein, trois quarts des Québécois veulent même pas que François Legault se représente, de dire comment je peux avoir un gain. Ah, je vais rentrer dans le corps des médecins, je vais faire une loi matraque, moi, je vais les mettre au poids, puis Christian Dubé, qui se représente pas, là, il aimerait ça avoir une petite étoile dans son cahier avant de quitter la politique dans un an, puis de dire, ah ben, je suis le seul ministre en 50 ans qui est parti en guerre aux médecins puis qui les a mis au pas. Mais ce qu'il pense pas, là, avec cette loi cabochon de même, là, c'est qu'ils viennent nuire aux Québécoises et Québécois qui n'ont pas accès aux soins. Alors, il y a des médecins qui vont quitter, qui vont se démobiliser. Moi, écoutez, il s'est rendu que les étudiants eux-mêmes vont faire des manifestations contre cette loi-là, alors qu'on pourrait dire, ben eux autres, ils doivent être contents parce que l'enseignement va être obligatoire. Non, ils voient qu'on est en train de faire encore plus mal à notre capacité collective de donner ça. Et trouvez-moi une seule personne, à part François Legault et Christian Dubé, qui trouve que c'est une bonne idée. Les experts, même le Collège des médecins, a dit que votre volume, votre approche par volume, ça va être au détriment des patients. Alors, honnêtement, nous, l'opposition officielle libérale, on va continuer à dénoncer ça. On retourne en chambre demain mardi, là. Fait que j'espère que Christian Dubé...
Fait que ça va brasser demain? Parle.
Ça va brasser demain, puis après-demain, puis dans les prochaines semaines, parce que on est en train aussi, 214 articles, 113 pages, de se rendre compte tout ce qu'il y a de mauvais dans cette loi-là. Écoutez, si ça prenait une... Je vais vous donner un exemple.
Allez-y.
Le 90 minutes de François Legault, on se rappelle tous de cette promesse-là.
Oui.
Il avait dit, vous allez voir un médecin aux urgences dans les 90 minutes de votre arrivée. Ça fait 7 ans qu'il est incapable de faire ça. Savez-vous ce qu'il a fait pour régler le grand génie?
Allez-y
pour régler le... Il l'a mis dans la loi. Il a mis dans la loi que les Québécois, les médecins doivent s'assurer eux autres que les
Mais si, mais si on n'a pas plus de ressources, bien évidemment, on n'y arrivera pas. Hey, parlant de ça va brasser, M. Tanguay, je m'en voudrais de ne pas terminer cette entrevue avec une bonne vieille chicane Parti québécois, Parti libéral du Québec. Je vous fais entendre les propos de PSPP sur le Parti libéral du Québec ce matin en conférence de presse.
C'est qu'un Parti libéral du Québec qui fait des campagnes de peur et qui n'a presque pas de contenu, on a vu ça à presque chaque décennie de notre histoire au Québec. Et ça a toujours mené à des gouvernements affairistes et corrompus. Donc, je nous invite à ne pas céder à ce genre de discours divisif et de peur. Si ce parti-là nous ment sur l'essentiel, bien, ils vont probablement nous mentir sur tout le reste, comme l'histoire du Québec, en ce qui a trait au Parti libéral, nous le confirme.
Monsieur Tanguay, est-ce que le Parti libéral de Pablo Rodriguez est un parti libéral corrompu?
Il vient dans l'extrait de Paul Saint-Pierre Plamondon, il vient de nous accuser d'être divisifs. Puis il nous traite dans la même phrase d'affairistes, de corrompus. Ben, je pense qu'il devrait faire attention, Paul Saint-Pierre Plamondon. Faut pas avoir de jugement pour attaquer de façon tout à fait injustifiée, déraisonnable. Un parti politique qui a fait avancer le Québec depuis 150 ans. Puis les Québécoises et Québécois, quand élisent un gouvernement, là, c'est notre démocratie, ils se trompent pas. Alors qu'ils fassent attention avec ça, là, parce que se faire traiter de corrompu, c'est un avocat, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, qu'ils fassent attention à ça, parce que c'est pas vrai qu'il peut dire n'importe quoi. Puis après ça, dire que nous, on est divisifs, puis ils nous traitent d'affairistes puis de corrompus. Voyons donc. Bien, c'est ça, Paul Saint-Pierre Plamondon. Prochaine élection, là, il va y avoir une question de l'homme. Quel changement pour le Québec? On veut-tu un Paul Saint-Pierre Plamondon là, qui attend le grand soir, voir si avec la pièce québécoise...
Oui, mais on veut-tu vraiment d'un Pablo Rodriguez, ancien ministre sous Justin Trudeau?
Il y a une équipe derrière Pablo, notre chef. Pablo est sorti sur tous les dossiers, notamment, vous l'avez dit en début d'entrevue, là, un gouvernement du Parti libéral du Québec sous le leadership de Pablo Rodriguez va scraper cette mauvaise loi-là, puis va s'assurer qu'on donne les soins, les services. Puis là, on a fait un appel, on a eu un beau conseil général en fin de semaine, on a parlé beaucoup de contenu, des propositions très tangibles pour les CLSC en région, et on va avoir une offre politique. Mais honnêtement, le leadership que vient de nous montrer Paul Saint-Pierre Plamondon, là, François Legault, c'est un péquiste. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un péquiste. On n'a pas besoin de se rajouter un autre 4 ans de ces mauvais gouvernements.
Monsieur Tanguay, on va avoir l'occasion d'en débattre suffisamment parce que moi, je vous l'avoue, je suis vraiment pas impressionné par Pablo Rodriguez à l'heure actuelle. J'espère que votre équipe va lui donner un petit peu plus de gaz. Là. Il me semble que vous méritez un meilleur chef.
On va revenir vous voir, faites-en pas. Puis on va vous convaincre.
Merci, M. Tanguay. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Pascal, on continue notre couverture par rapport aux médecins et à ce projet de loi 2, la loi spéciale, la loi Matraque, avec deux personnes après la pause. La docteure Emmanuelle Briton et le docteur Martin Forgue. Eux, ils travaillaient respectivement comme médecin conseil et directeur général adjoint au ministère de la Santé. Mm-hmm. OK, eux, ils étaient contre le projet de loi 106 pour changer le mode de rémunération des médecins. Ils étaient contre la façon de faire de la CAQ. Sais-tu qu'est-ce qu'on leur a fait?
Dis-moi.
On leur a dit « dehors ». On les a congédiés parce qu'on veut que tout le monde pense pareil.
C'est un peu bulldozer ce qui se passe en ce moment-là.
Donc, après la pause, on va parler avec ces deux médecins qui vont nous expliquer ce qui leur est arrivé et pourquoi ils étaient contre le projet de loi 106. Qu'est-ce que tu en penses, ça, de la louche?
Oui, on va aller parler à ça sur le terrain.
On fait ça, on va jaser avec eux autres parce que c'est une émission « On en jase ». Ah! Oh, sur les ondes de Boulevard 102.1. Restez là, on revient immédiatement après cette courte pause.
La dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Exactement, midi 46 sur Québec. Vous êtes à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Pascal, avant qu'on passe à nos deux invités, on va avoir une conversation tellement intéressante avec la docteure Emmanuelle Briton. Tu sais, j'ai sorti mon accent anglais. Et également Martin Forgue, qui est un haut placé, un cadre au niveau du ministère de la Santé. La discussion qu'on vient d'avoir, les extraits de Christian Dubé, tout le monde en parle, la discussion avec Marc Tanguay, la façon qu'on a fait des choses, Pascal, mon Dieu, il y a donc bien des gens qui ont réagi par texto.
Oh oui, 88-971-1021, rougit énormément quand on vient à parler de ce projet de loi-là. Entre autres, on essaie de poser la question, comment faire tourner le paquebot? Marc Tanguay n'a jamais voulu répondre à votre question. On nous le souligne au 88-971-1021. On dit, dans sa conclusion, on dit que les Québécois auront de meilleurs soins si le PLQ est élu. C'est exactement ce que la CAQ promettait avant les élections. Est-ce une mission impossible? Quelqu'un d'autre qui dit, pourquoi on entend toujours Marc Tanguay maintenant que Pablo Rodriguez a été nommé? Où est-il
on le cache,
ce
le
matin?
Chef. Oh oui qu'on le cache, parce qu'il livre pas à marchandises. Je les ai en fin d'entrevue. Je dis, ouais, moi, je suis pas impressionné par Pablo Rodriguez.
Je te le dis, un bon Québécois, c'est un paquet de merde.
Oui.
C'est un paquet de merde, le sujet d'aujourd'hui. Ça fait des années que c'est complexe. Mm-hmm. Combien de ministres de la Santé ont croulé en ayant entre les
exactement.
Mains j'allais dire terrain de jeu-là. Ouais. Je ne vais pas dire comme ça. Mais on pensait qu'avec M. Dubé, il allait avoir plus de concertation avec les gens du
vraiment.
Milieu. Je pense que là, le bas blesse encore. On a des gens qui soulignent à quel point ça brime les droits et libertés. D'autres qui souhaiteraient que les réponses qu'on ait posées soient posées plus souvent, mais surtout répondues. Quelqu'un aussi qui parle du fait qu'on a de la concurrence ailleurs et que le gouvernement québécois semble pas être conscient de ça en imposant aux médecins ce qu'on vient de voter du côté du Bayon en fin de semaine.
Moi, Pascal CV, j'ai été gestionnaire pendant une vingtaine d'années dans les organisations publiques et j'ai toujours aimé quand mes employés venaient me voir et me dire « Jeff, T'es sûr que tu vas prendre cette décision-là? Parce que moi, là, sur le terrain, je la sens pas, celle-là.
Oui.
Pour telle, telle, telle raison. Puis là, je faisais, ah, regardons ça, on va réviser le plan, on va rencontrer du monde, on va... Ben, sais-tu, ça existait avec le projet de loi 106, qui est maintenant le projet de loi spéciale.
C'est dur de plaire à tout le monde, Jeff. Oui. Puis c'est pas comme ça qu'on avance. Par contre, là, on entend une grogne qui est collective, là.
Ben, une grogne à... Il y a 100% de grogne chez les médecins.
Il y a une chose que je n'ai pas vue encore, c'est préposé aux bénéficiaires, infirmiers, infirmières, ouais, sortir énormément pour appuyer les médecins. Que se passe-t-il? Est-ce qu'ils ont le droit de parler ou c'est encore ça qui fait en sorte qu'ils sont muselés, qu'on n'entend pas ces gens-là aussi?
C'est quoi demain, 13h30, Jenny Boutet, une infirmière au niveau du CHU de Québec, va venir s'asseoir avec nous pour nous parler de
Bravo pour le courage.
Oui, oui, Jenny va avoir énormément de courage avec nous. Mais là, en attendant, Pascal, je te présente la docteure Emmanuelle Britton et Martin Ford, qui travaillaient respectivement comme médecin conseil et directeur général adjoint au ministère de la Santé pour le projet de loi 106. On leur a dit bye-bye, tu penses pas comme nous. Madame Britton, bon début d'après-midi, bon midi.
Bonjour, merci de nous inviter. Ça va bien?
Oui, ça va très bien. Vous, M. Forgue, merci de vous rendre disponible pour nous.
Ça me fait plaisir. Bonjour à vous deux.
Excellent. Madame Britton, je commencerai avec vous. Vous êtes médecin dans la région de l'Outaouais. Vous étiez justement sur le, je vais le dire comme ça, sur le projet du projet de loi 106. Pourquoi on a décidé de vous dire, ah, savez-vous quoi, Madame Britton, retournez à votre clinique, ça ne fonctionne pas?
J'amènerais une précision. Ouais. Je n'ai pas été sur le dossier du projet de loi 106, ce qui est important à le nommer parce qu'effectivement, moi, pour juste clarifier rapidement, moi, j'ai appris du projet de loi 106 en même temps que la population. Mm-hmm. Donc, moi, je suis beaucoup les médias et je vous remercie d'être présent parce que malheureusement, ben, moi, j'ai su du PL 106 en même temps que la population du Québec. Moi, je suis médecin de famille, effectivement, en Outaouais. Je suis médecin conseil depuis 2023 à 4 jours semaine au ministère de la Santé. Donc, je travaillais d'autres gros dossiers, pas pour tout vous les nommer, mais des gros dossiers dont le premier qu'on est venu me chercher, c'est M. Ford qui est venu me chercher en Outaouais dans mes postes pour le modèle de soins au Québec. Le statu quo n'était plus ce que nous désirions, ce que la population mérite. Et effectivement, comme qu'on voit et on a des échos de nos provinces avoisinantes, on avait effectivement toute l'intelligence collective au Québec pour se parler, se concerter et faire avancer un modèle qui, effectivement, pour chaque région, si bien réfléchi, bien mobilisé, engagé, on arriverait à avoir un accès à 100% de la population par le bon professionnel. Donc, ça a été mon gros dossier avec les équipes, entre autres, parmi d'autres. Puis là,
oh, malheureusement, Mme Britton vient d'avoir...
On s'est concerté ensemble pour ceci. Et donc, on avait effectivement une table nationale pour amener et valoriser les étudiants qui choisissent la médecine de famille, ceux qui sont proches de la retraite, les garder. Et donc, vous pouvez imaginer avec ces deux gros dossiers-là, ben, d'apprendre le PL 106 et ensuite d'en prendre connaissance de son contenu. Ben, comme dans mon titre de médecin conseil, et j'ai beaucoup de rigueur et de questionnement, donc je pose des questions. J'amène des expériences terrain par rapport à comment l'interpréter, comment l'appliquer, comment l'expliquer. Puis effectivement, ça a été un environnement dans le passé où est-ce que c'était bien accueilli. Moi, je pensais que tout allait bien, tout allait pas bien avec le PL 106, mais de pouvoir le nommer et l'adresser.
Oui, vous pensiez qu'il y avait une communication ouverte là, avec les gens du ministère.
Effectivement, à l'interne du ministère. Mais à ma grande surprise, le 20 juin, qui ça la donne, était le lendemain de la table nationale de valorisation de la médecine de famille au Québec. Donc, j'étais en personne avec Martin Fogg et les organisations pour essayer de faire avancer la médecine de famille au Québec. Moi, je pensais que c'était un suivi par rapport à ce sujet-là avec le sous-ministre adjoint, Dr. Stéphane Bergeron, mais on m'a tout de suite annoncé, il m'a annoncé en séance tenante que ça serait une rencontre difficile et que, étant donné que j'avais vocalisé beaucoup d'inquiétudes en lien avec le projet de loi 106, que mes valeurs et mes convictions ne tiendraient pas avec le PL 106 dans sa forme actuelle ou l'évolution du PL 106 à venir. Et donc, on m'a remercié pour mes services et ça faisait fin à toutes mes contributions en séance tenante au ministère. Donc, retourner être médecin de famille en Outaouais.
Merci. On revient à votre dossier, justement, dans quelques instants. Je vais entendre M. Martin Forgue. M. Forgue, quand on s'est parlé hors d'onde, je comprenais. Là, vous, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a tabletté pour le moment parce que vous questionnez, justement, ce projet de loi-là.
Il faut comprendre que ça faisait plus de 2 ans et demi. Là. Je vous écoutais tout à l'heure parler des partis qui prennent des engagements, mais je peux vous assurer que j'avais jamais vu un exercice de mobilisation depuis les 2 dernières années où tous les professionnels de la santé, incluant les médecins, souhaitent que l'ensemble de la population puisse avoir accès à des soins et services. Et c'est de cette façon qu'a été construit tout le la nouvelle organisation qui était souhaitée. Et là, je vais faire l'analogie. Ce qui était souhaité, puis on utilisait beaucoup l'analogie de l'école, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez avec votre famille sur un territoire, dans une localité, vous ne posez pas la question si vos enfants vont avoir accès à l'école. Vous savez qu'ils vont avoir accès à l'école. Alors, on avait la même approche, c'est-à-dire que dorénavant, quand je demeure sur un territoire puis il y a une clinique, bien, on m'assure d'avoir accès à la clinique. Pour mettre en place ce modèle-là, il avait été convenu avec tous les autres professionnels et les fédérations médicales qu'on devait construire des équipes. Équipes médecins, bien entendu, qui est la pierre angulaire, mais médecins avec pharmaciens, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, pour nous assurer dans un premier temps que quand j'ai un besoin, j'ai un certain besoin, bien, qu'on puisse évaluer mon besoin et me diriger au bon professionnel de la santé. Hein. On parlait hors d'onde du hockey, ben, j'ai une blessure au genou, c'est probablement un physiothérapeute que j'ai besoin, puis on ne voulait pas qu'on soit inscrit sur une liste d'attente. Besoin de voir un physiothérapeute à l'intérieur de 2 jours, ben, je vais avoir un rendez-vous à l'intérieur de 2 jours avec le physiothérapeute. Mais pour réussir ce modèle-là, il fallait nous assurer d'avoir l'ensemble des professionnels. Et vous le savez, là, je ne dévoile pas un secret d'État, les professionnels actuellement, il en manque dans le réseau. Alors, on avait convenu qu'on allait construire ce nouveau modèle d'organisation clinique-là sur une longue durée de temps, tout comme en Ontario. On avait déjà un pas d'avance sur l'Ontario. Et l'Ontario, ben, ils vont le construire sur 5 ans. C'est pratiquement la même affaire qu'on veut bâtir là, au Québec. Moi, mon inquiétude, ben, c'est ça. Il est arrivé le projet de loi 106 et j'ai manifesté mon inconfort sur le moyen. Parce qu'on était tout prêt, on était même prêt à démarrer des projets pilotes, Rivière-du-Loup, Saint-Donat, Montréal. Alors, on était tout prêt de tester le modèle, puis on pouvait
y
aller.
Et ça avait été discuté, là.
Tout à fait. Okay. Oui.
Pourquoi on est allé aussi vite, vous pensez? Est-ce que c'est parce qu'on est en campagne électorale, puis on voulait rapidement boucler la boucle, même si on allait faire tourner les coins ronds? Qu'est-ce qui vous permet de penser que le gouvernement est allé aussi vite?
Ouais, je veux faire quand même attention de garder un certain droit de réserve, vous comprenez, dans la situation que je me retrouve actuellement. J'ai juste exprimé, comme je le disais tout à l'heure, que la façon de si on procède trop rapidement, on risque de briser, puis c'est mon inquiétude, c'est qu'on brise tout ce qui avait été construit avec le terrain. Pour quel agenda? On n'a jamais répondu à cette question-là. Et comme l'a dit Dr. Breton, on m'a fait savoir le 20 juin au matin qu'il y avait un malaise, il y avait beaucoup de plaintes du cabinet du ministre, il y avait beaucoup de plaintes du sous-ministre en titre quant à mon inconfort du projet de loi 106 et les questions que je posais. Et on mettait fin immédiatement à mon prêt de service. J'étais rencontré, je crois, à 9h30 le matin et on me demandait de quitter les lieux à midi.
Avez-vous été le seul à qui on a dit merci beaucoup, on a fait le tour avec vous?
On était les deux seuls qui osaient poser des questions parce que vous comprenez que moi, je ne l'avais jamais vu là, à l'intérieur du ministère de la Santé depuis 2 ans. J'étais là pendant 18 ans. Depuis 2 ans, il y avait un problème sérieux de communication. On ne nous a même pas présenté à l'intérieur du ministère de la Santé le contenu du projet de loi 106. J'avais aucune tribune. On n'avait aucune tribune, Dr. Breton et moi. Et à l'intérieur de la direction générale, on nous a proposé de poser des questions, puis là, on sentait de plus en plus un inconfort. Ce que le docteur Bergeron m'a clairement indiqué, que ça créait même un inconfort à l'intérieur de notre propre direction. Alors, c'est une forme de loi du silence qui s'est imposée, et aussi une rupture complète entre les experts du ministère de la Santé et l'équipe politique, et aussi plus de pare-feu hein, entre le sous-ministre en titre et le volet politique.
Vous étiez les deux seuls critiques et vous étiez les deux seuls à vous faire dire merci.
Tout à fait.
Madame Britton, on se sent comment en tant que médecin de famille maintenant, quand que M. Forgue nous parle de ce modèle-là, est-ce qu'on va pouvoir l'implanter avec le projet de loi qui est tombé ou ça va être impossible en raison que vous devez aller plus rapidement avec les patients?
C'est une question de cette question de quantité versus qualité qu'on entend beaucoup. On n'est pas dans un modèle purement quantitatif, je me permets là, de comptable ou de chiffres. Les questions qu'on a posées depuis que je le vois effectivement dans le PL 106, puis là, en prenant connaissance de tous les articles et le langage législatif, je ne suis pas avocate, je suis médecin de l'applicabilité. Demeurent les questions de l'applicabilité. Le patient au cœur de ceci, c'est une chose de lui promettre une cible de performance qu'on questionne toujours. Elle est basée sur quelle science, quelle littérature. Et la deuxième, ben, c'est effectivement... On lui promet une cible, on lui promet un certain échéancier, mais quand il va réellement appeler, cogner à la bonne porte pour avoir son besoin répondu, j'ai des forts doutes que les effectifs ne seront pas présents. Donc, il faut comme société, je pense, se le dire. On connaît, on peut faire mieux, on peut faire différemment. Le moyen était effectivement en place. La mobilisation, l'engagement, on était sur la ligne de départ, comme dit M. Fogg, à décembre à 2024. Et ensuite est arrivé cet outil-là, c'est ce moyen-là que nous disons, qui est venu casser le tout. Et là, effectivement, dans la situation précaire qu'on se retrouvait, qu'on avait malgré tout post-COVID, post-pénurie d'effectifs, arrivé à pouvoir moderniser, innover, valoriser, engager, mobiliser, là, on se retrouve dans le climat dans lequel vous vivez aussi, comme citoyen, citoyenne, et certainement que vous entendez par les gens qui vous interpellent. Réengager cette confiance-là, réengager cette mobilisation. Tout le monde est de bonne foi, mais ils sont complètement, un, vous l'avez nommé en colère, mais derrière la colère et ceux qui crient, il y a le silence. Puis il y a plusieurs collègues des médecins, mais des médecins leaders aussi, qui étaient ceux qui poussaient ces projets, ces innovations et qui mobilisaient les membres, leurs membres médecins, les membres professionnels, les gestionnaires, etc. On les voit complètement détruits, démobilisés et je crains à savoir si c'est récupérable ou non. J'en ai fait un mandat moi-même quand je suis revenue de l'Ontario. Je suis revenue de l'Ontario médecin de famille pour me dire on va venir servir nos citoyens, citoyennes, mais aussi améliorer les choses. On a rebâti en équipe cette confiance-là envers les établissements, envers le ministère,
le gouvernement. Allez-vous repartir en Ontario?
C'est une question qui est très difficile à répondre. Elle est très émotionnelle. Je m'y attendais. Force est de constater, j'avais encore confiance par les processus qui nous avaient été déterminés. L'intelligence collective qu'on connaissait avait pris la parole. J'avais grand espoir qu'on arriverait à quelque chose de meilleur de ce qu'on avait vécu du PL 106, qu'on reviendrait à la raison. Mais force est de constater, puis je suis encore dans un état de choc moi-même à la lecture de qu'est-ce qui s'est passé ce week-end avec la loi 2. J'ai beaucoup de difficultés à essayer de concevoir comment on va pouvoir avancer. Je suis toujours prête à avancer avec ma communauté, mais les patients ont besoin d'être soignés. Puisque pour répondre à votre question qui est difficile, je dois vous l'admettre, j'ai toujours été transparente, j'y songe. C'est une façon de pouvoir contribuer des deux côtés de la rivière, parce que moi, j'ai le privilège de vivre sur le niveau frontalier. C'est une région, Ottawa-Gatineau, mais je veux absolument pouvoir tenter d'aider, mais je ne sais pas comment on va y arriver. Puis pareillement, il faut pouvoir avoir la force de le faire personnellement, tout en demeurant soignant. Donc, je suis en sérieuse réflexion par rapport au futur. Oui.
Rapidement, parce que je me demande comment répondre à cette question-là. Vous êtes assurément émotif dans le contexte. C'est fâchant, on l'entend. Puis vous représentez plusieurs médecins en ce moment qui sont mécontents. Est-ce qu'il y a une chose de bonne dans ce projet-là que vous voyez quand même qui a été appliquée, peut-être chacun votre tour?
Juste un dernier, deux commentaires. Le premier, c'est que tous les médecins étaient d'accord pour revoir le mode de rémunération. On disait, on change le modèle d'organisation clinique, on le fait évoluer. Il faut que la rémunération vienne encourager ce mode ce modèle-là. Puis là, je vais vous donner un exemple rapide. Si un médecin allait voir un patient qui aurait dû être vu par un physiothérapeute, sa rémunération allait être moindre parce qu'on voulait s'assurer que les médecins puissent prendre en charge les patients qui doit avoir un médecin. Alors ça, c'est... Et pour changer le mode de rémunération, nécessairement, il fallait avoir une loi pour changer la loi d'assurance maladie. Alors, ça, c'était nécessaire et essentiel. Point.
Je comprends très bien que là, maintenant, on est allé pousser trop loin. Madame Britton, si vous voulez répondre à la question de ma collègue Pascal.
Il est difficile. C'est une réponse similaire à M. Fogg, sans aller dans les détails, par contre, parce que je suis encore moi-même en train de l'étudier. La question du modèle de rémunération, elle a été adressée depuis le début du modèle de soins. On s'est dit au Québec, on se doit de bâtir le modèle de soins qui va répondre aux besoins de nos Québécois. On avait la science, on a les meilleures pratiques nationales, Canada et à l'international. Et ensuite, on l'adaptait au contexte québécois et on s'est dit, on adaptera le modèle de rémunération au modèle qu'on a bâti. Donc, le modèle de capitation, tarif horaire, à l'acte, c'est rien de nouveau. Tout le monde était d'accord. Je ne m'avancerai pas dans les chiffres et les calculs parce que je ne suis pas rendue à ce point-là. Mais on sait que le modèle de rémunération à l'acte était trop ancien. On était tous d'accord depuis des années de le changer et de l'adapter avec les meilleures expériences aussi. Alors, on a regardé la Colombie-Britannique, les autres provinces qui nous devancent maintenant que nous devancions. On l'avait dit à l'interne, on avait tous les ingrédients et tous les gens engagés au Québec pour mettre en place ce qu'on vous présente. On était sur la ligne de départ. On a même dit qu'on devancerait l'Ontario. Une petite touche compétitive, des fois, ça l'aide à faire bouger. Hein? Fait qu'on a mis cette approche-là, mais force est de constater que maintenant, nous reculons, un recul majeur que j'ai jamais vu dans ma carrière depuis que je suis médecin de famille en Ontario et au Québec. Donc, on aurait dû vraiment se limiter. Je suis pas avocate, est-ce que ça prenait un projet de loi ou non, mais se limiter à ce qui était nécessaire pour arriver à un modèle de rémunération qui fonctionne pour effectivement inciter le travail collaboratif avec les autres professionnels pour que les patients qui ont ce changement-là de voir la nutritionniste, le physio, l'infirmière et j'en passe. Mais effectivement, tant le PL 106 qu'encore plus, encore moins la loi 2 se sont limités là, à ces besoins-là. Donc, présentement, dans sa forme et son contenu actuel, je peux vous dire que c'est pas soutenable, c'est pas durable et on va malheureusement le vivre ensemble, les conséquences de cette adoption-là.
En terminant, dernière question, peut-être qu'on peut vous entendre là-dessus aussi. Vous êtes un conglomérat, hein? Vous ne travaillez pas seul, les médecins, vous travaillez avec une panoplie de professionnels aussi, disons-le, que ce soit des infirmiers, des infirmières, des IPS, des préposés, vous travaillez de concert. Est-ce qu'on vous divise dans ce projet de loi-là? Est-ce qu'on vous sépare des vôtres? Est-ce que ça peut miner ou encore mener une fragmentation à ce niveau-là entre collègues?
Je vous partage qu'on pleure ensemble. il y en a plusieurs qui sont déjà, qui ont pris certaines paroles. Il y en a qui ne peuvent pas prendre de prise de parole. Puis je le respecte effectivement. Le risque, il est là, oui. Et on le voit et on le sent. On l'entend. Quand moi, je suis une grande proponente, je suis une grande fan des IPS. J'ai travaillé avec eux en Ontario pendant plusieurs années. La pratique était beaucoup plus avancée qu'au Québec. Mais on entend de plus en plus puis le ministre le fait lui-même, il valorise les IPS tout en dénigrant les médecins sur la place publique. Donc, effectivement, cette division-là, je l'avais commencé à la ressentir même avec le PL 106 dans une collaboration qui était établie, pas aussi établie que celle que j'avais vécue en Ontario, mais qui commençait à être établie de plus en plus là, avec des spécialistes qui accueillent des IPS à l'étage, les médecins de famille. Fait qu'entre nous, ces relations humaines-là, on peut pas nous les enlever. Mais c'est sûr que plus il y a des éléments qui viennent cibler qu'un groupe de professionnels, des médecins comme ceci, dans toute gestion de changement, il faut avoir les bons ingrédients, puis ça vient en casser un majeur par rapport à la collaboration interprofessionnelle qu'on visait à avoir dans les conditions antécédentes.
Emmanuel Britton et Martin Forgue travaillaient respectivement comme médecin conseil et directeur général adjoint au ministère de la Santé. On les a remerciés au mois de juin dernier parce qu'ils osaient prendre la parole contre le projet de loi 106 qui vient de se transformer en projet de loi 2, une loi spéciale sur le mode de rémunération des médecins. On vous remercie infiniment pour votre disponibilité aujourd'hui à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Puis on vous souhaite bon courage et bon succès là, malgré les embûches que vous avez sur votre chemin présentement.
On vous remercie
beaucoup.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Au revoir.
Pascal, après la pause, on revient dans l'actualité municipale. Mathias Turcotte était sur le terrain ce matin. Il est allé voir une conférence de respect citoyen sur leur plan pour le transport en commun. Donc, on va parler transport en commun, transport structurant. On va regarder ce que respect citoyen nous propose parce que Bruno Marchand nous propose le tramway. Sam Hamad nous propose le SRB+. Mais qu'est-ce que Respect citoyen nous propose en termes de transport en commun? C'est la question qu'on va tenter de répondre après cette courte pause sur les ondes de Boulevard 102.1, l'émission On en jase.
On en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, On en jase.
On veut rien savoir des gants blancs, on en jase, hein, Pascal CV?
Pas connu pour ça, par
Nous
contre.
Nous autres, on va critiquer.
Aïe, aïe, aïe.
Je me sens vraiment tannant aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce que mon fils a eu 18 ans hier et ça m'a refait en remettre à cet âge-là. J'en ai aucune idée.
Je pense que c'est aussi parce que c'est très lourd hein, dans les nouvelles.
Ah,
c'est,
oui.
C'est prenant puis c'est des enjeux de société qui sont très forts. Moi,
je
vais rester marquée de quelque chose dans la dernière entrevue qu'on a fait, Jeff.
Vas-y donc.
Il y avait un devoir de réserve pour répondre à certaines de nos questions. Puis le devoir de réserve a été exercé quand j'ai posé la question à savoir, on vous a expulsé pour quelles raisons? Parce qu'il y a les raisons du gouvernement, fort probablement de les avoir expulsés, mais il y a aussi des raisons qu'on peut spéculer.
Mm-hmm.
Ça, j'ai pas de réponse. Je le comprends. Je le comprends pour notre gestionnaire qui dit « Hey, moi, je peux pas aller là. »
Oui, il faut que faites attention, il est encore à l'emploi du ministère de la Santé. On va le replacer en quelque part à un moment donné.
Exact. Puis tu sais, c'est signé dans des ordres.
En attendant, parce qu'il n'était pas en faveur de ce projet de loi-là, mais qu'est-ce qu'on fait? On lui paye son salaire pour rester à la maison. Tu sais, c'est le même qu'on gère.
Au lieu de jouer avec le challenge que ça donne. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, les médecins actuellement aussi ont un devoir de réserve. Mais 88-971-1021, si vous voulez le faire de façon anonyme, là, on est en contact avec nos auditeurs depuis le début de l'émission, puis on va continuer de le faire.
C'est fou, on est dans une dérive autoritaire au Québec. Et dire qu'on riait de Donald Trump, on rit de Donald Trump encore avec sa dérive autoritaire, mais la CAQ calque le modèle Trump en santé à l'heure actuelle. Quand même assez capoté d'y penser. 10 degrés, possibilité d'averse à 30% aujourd'hui, mais Pascal, 10 degrés mardi et mercredi avec le soleil. Ça, c'est le fun, c'est des belles journées d'automne. Et j'ai travaillé dehors samedi.
Ah! T'es pas tout seul. Il y en a qui ont fait aussi l'entretien du véhicule. Pas auto-économique, en passant, si vous avez besoin.
Ben
mais
oui.
On est là-dedans, là.
Ah, vraiment, 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 vraiment. Donc, c'était très plaisant. Il est sur le terrain pour nous durant cette campagne électorale. C'est Mathias Turcotte que vous appréciez énormément. Mathias, comment vas-tu?
Ça va très bien. Bonjour à tous en ce beau lundi matin.
Mathias, c'est allé à une conférence de presse qui m'intéressait énormément quand tu m'écris ce week-end pour me dire « Hey, Respect citoyen va présenter son plan en transport en commun. » J'ai dit « Go, 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 va-t'en là » parce que vous le savez, j'adore jaser de transport en commun et regarder le tout avec un et une oreille très attentive. Donc, qu'est-ce qu'on a dit du côté de l'équipe de Stéphane Lachance pour le transport en commun à Québec?
Oui, depuis le début de la campagne, on place un peu Respect citoyen comme étant une partie anti-transport en commun. Là, c'est un peu ça l'image que se fait la population.
Ils sont positionnés là avec on n'est pas pour le tramway, on est contre le transport structurant. Respect citoyen, on le sait, ça émane d'un groupe Facebook au départ qui est tramway, non merci, no way. Donc, ça les positionne quand même contre un transport structurant.
Exactement, mais aujourd'hui, on a posé sur table notre plan pour optimiser le réseau de transport de la capitale, donc le RTC. On dit depuis le début qu'on veut l'optimiser. Comment qu'on va le faire? Eh bien, c'est ça qu'on a présenté aujourd'hui. C'est un plan qui a été mis en place surtout par Éric Gay, qui est ingénieur d'optimisation et candidat dans le district de Pointe-Sainte-Foy pour Respect citoyen. En gros, c'est deux points principaux, là. On prend d'un côté l'exemple du Winnipeg Transit. Donc, Winnipeg Transit, qui est le réseau de transport à Winnipeg. Ce qu'on a fait là-bas et ce qu'on veut faire ici, c'est tout d'abord prendre des réseaux d'autobus et mettre plus de réseaux express, donc des réseaux qui partent d'un point A au point B sans faire 12 arrêts en même temps, en un trajet. Ben, on veut en mettre davantage et donc forcément retirer des trajets normaux qui vont faire 12 arrêts. Ils seraient conservés quand même, mais ils passeraient à un intervalle légèrement plus long. Ça, l'objectif, c'est justement avoir une meilleure efficacité puis des transports plus rapides pour le réseau d'autobus.
Excellent. Donc, on écoute Éric Gay.
Et comme on vous dit, à mi-mandat, on revient avec le jumeau numérique. Une fois qu'on va avoir une vraie modélisation de la ville et de son transport, on va être capable de déterminer les axes structurants nécessaires parce qu'actuellement, je doute que le projet de tramway soit mis au bon endroit. Puis, il y a d'autres technologies qui existent qu'un tramway. Il y a des métros, il y a des monorails, il y a plein d'autres choses à évaluer qui ont toujours été sous-estimées. La CBTQ Infra, là, il planifie d'ailleurs éliminer 30 000 voitures, mais vous savez qu'on a dit qu'on va avoir 80 000 logements de plus à 2,5 personnes par logement, c'est 200 000 habitants de plus. Vous savez qu'il y a combien il y a de véhicules à peu près en moyenne par loyer? Deux. Pensez-vous que 30 000 véhicules en moins versus peut-être un 100 000 véhicules de plus que les routes, ils vont être pleins. Moi, je doute que le tramway va être suffisant. Ça va prendre autre chose.
Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est parce qu'il défendait un peu. J'y ai posé la question, est-ce que ça va être suffisant en 2040 quand on va avoir 1 million d'habitants, ce projet-là, seulement optimiser le réseau du RTC? Puis ce qu'il a expliqué, c'est que c'est pas nécessairement le seul projet qui va être sur la table. En gros, on va commencer par optimiser le réseau d'autobus, le rendre plus efficace de la manière que je vous ai expliqué. Et par la suite, à l'aide d'un jumeau numérique qu'on va implanter, donc ça, c'est une modélisation 3D qui s'ajuste en temps réel, on va arriver à la conclusion quel est le meilleur transport structurant pour la ville de Québec, c'est quoi qu'il faut pour améliorer le transport à Québec. Et par la suite, après 2 ans, à mi-mandat environ, on va peut-être arriver avec un projet structurant.
Pascal, on n'est pas à la télévision, on est à la radio, mais là, les gens sur Twitch, dans le 30 dernières secondes d'exposé de Mathias, ont vu ta face et ils se sont dit « Oh my God, Pascal a dit, on s'en va où avec ça? » Explique-moi ce qui s'est passé dans ta tête, s'il te plaît.
Ben, j'ai de la misère à concevoir que c'est ça qu'on présente.
Ouais,
j'ai de la misère à concevoir que c'est ça qu'on présente quand ça fait longtemps qu'on est en opposition quand même à la mairie, à l'hôtel de ville, qu'on sait qu'on veut se présenter, qu'on sait qu'on a un parti, que ce qui est fort, 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 fort déclaré partout puis par les citoyens, c'est qu'il faut que ça avance.
Ouais.
À un moment donné, le projet, on va presque le faire passer, le tramway, sinon on va le faire passer parce qu'on est écœuré d'en jaser, on est écœuré que ça aille pas assez vite.
Moi, c'est... mais non, mais c'est... t'as entièrement raison, puis quand on regarde ça, là, leur parcours express qui va faire moins d'arrêts, ben, savez-vous que la RTC a développé l'Express 630 et l'Express 650 cette année, c'est en plein ça.
Est-ce que je me leurre ou je suis trop sévère? Est-ce que je suis Christian Dubé du commentaire en disant que j'ai l'impression qu'on me présente rien?
Non, t'es pas trop...
À la fin de la campagne?
T'es vraiment pas trop sévère. J'ai regardé la présentation, Mathias me l'a envoyé, puis honnêtement, au niveau des parcours express, c'est du réchauffé, puis on dirait que Respect Citoyen n'a pas conscience de ce qui est sur la table présentement au RTC. Il représente le plan du RTC 2028. C'est exactement ça qu'ils font.
OK, donc là, mon visage, je m'excuse, il a parlé tout seul, mais c'est rien pour moi.
Non, non, il essaie de te faire à croire qu'eux autres arrivent de quoi de nouveau.
Avec quelque
mais
chose.
Mais c'est pas nouveau. Puis la modélisation 3D, il va juste falloir qu'on m'explique comment ça va être différent du système présentement qu'on a au RTC qui, en temps réel, prend l'autobus. Il est-tu en retard? Il est-tu pas en retard? Il y a combien de passagers? Il y a ci, il y a ça pour pouvoir assurer une fiabilité.
C'est même pas prêt. Je pense que dans ces statistiques-là, on n'a même pas été capable de répondre ou qu'on ne sera pas capable de répondre avant un bon bout. Je comprends qu'on veut se porter comme étant le parti qui est contre le tramway, puis c'est sûr qu'on n'en fait pas un. Mais là, clairement, il manque de la chair autour de l'os parce que les gens, quand tu regardes les sondages, demandent un réseau de transport structurant. Pour certains, le tramway n'est pas l'option. Mais là, on ne présente rien. Il y a un auditeur qui dit « C'est simple, en 2040, selon le projet, en 2040, on va faire une autre voie de tramway sur les dernières rues restantes. »
Non, mais c'est de toute façon, le plan Cité expliquait que jusqu'en 2040, il y aurait justement 3 réseaux de tramway, dont un sur le boulevard Le Bourgneuf, un qui part de Beauport, puis il y aurait un SRB sur Charest. Ce que sa maman dit, lui, c'est que tant qu'à faire le tramway, on va faire un SRB, comme ça on va pouvoir le faire plus vite, puis toute la ville va être desservie, ce qui n'est pas faux. Ce que je crois, quand Respect Citoyen dit le tramway à lui seul qui passe au centre-ville ne sera pas suffisant, en effet, le plan Cité prévoyait d'autres phases. Mais ce que Respect Citoyen nous présente, et là, en tout respect pour ce parti politique-là, c'est le plan du RTC 2028.
Parce que je veux pas qu'on chiale pour chialer, mais c'est ça.
Non, 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 mais
là,
c'est ça, le plan d'optimisation du RTC qui nous amène par la suite à se brancher à un réseau structurant. Est-ce qu'on a parlé de futurs réseaux structurants, justement, au niveau de Respect Citoyen?
Oui, bien justement, on en a parlé parce que c'est ça que M. Guy disait un peu, c'est que si jamais le nouveau système de modélisation 3D nous révèle que ça prendrait un réseau structurant, on va le faire. Puis même, on a dit que ça se pourrait que ce soit un réseau plus structurant encore que le tramway. On n'a pas fermé la porte, par exemple, à un métro. Tout ça, bon, ça va être à voir. Mais du côté de Respect Citoyen, ce qu'on dit, c'est que on va consulter la population en cas de transport structurant.
C'est possible qu'il y ait certaines personnes qui aient un petit gain de moins, mais on va s'assurer d'avoir des fréquences responsables. Puis on sait qu'avec les flexibus, on peut supporter des zones un peu limites. Puis si vous regardez un peu plus loin, le Winnipeg Transit, vous n'avez peut-être pas tout lu, là. Il y a un plan on peut augmenter le nombre d'autobus aussi, là. C'est pas interdit, là. Fait que pour justement conserver une desserte efficace, c'est tout. Puis un RTC efficient avec du monde dans les autobus, ça se porte bien une ligne avec un parc incitatif de plusieurs centaines de voitures. Parce que si on fait la moyenne actuellement au RTC, là, un autobus transporte 150 passagers par jour, 75 le matin, 75 le soir. Il faut s'assurer d'avoir des dessertes pleines.
Ça, c'était à la suite d'une question que je demandais justement, est-ce que les banlieues vont écoper? Parce que c'est ça qui revenait beaucoup du Winnipeg Transit, justement. Les artères principales, la circulation était grandement améliorée. Par contre, tout ce qui est banlieue, périphérie, ben, on sentait des habitants un peu moins bien desservis. Puis c'est ça, comme il a dit, ça se peut qu'il y ait des habitants qui soient un peu moins.
Pascal, à mon tour de ne pas vouloir être trop critique envers Respect Citoyen, mais je vais te poser la question, OK? On conçoit que le tramway n'est pas le projet le plus populaire. 43 % de la population présentement le veulent. 57 % ne le veulent
pas.
C'est
des sondages.
OK. Par contre, si là, j'arrête tout, puis que je fais une optimisation du RTC pendant 4 ans, puis qu'après ça, je consulte la population, puis là, je dis, ouais, c'est un métro léger que ça prendrait. Et je vais l'avoir quand, le métro léger, Pascal?
On est mort trois fois, là. Puis, tu sais, puis honnêtement, ça fait 10 ans qu'on aurait dû embarquer dans le train. Peu importe quel garde qu'on aurait dû embarquer ses rails.
Express la capitale.
Peu importe. Ben oui. On est sincèrement en retard dans un projet de réseau structurant. Puis là où le bas blesse encore, c'est qu'on n'a aucune interconnexion avec la rive sud.
Tu as tellement raison.
Je suis au bout que les projets se fassent un reculé. Puis là où je donne raison au maire Marchand, c'est qu'on doit y aller de l'avant.
Oui.
Est-ce qu'on devait se faire embrocher puis avaler le papier de la napkin à la bombe? Non, pas nécessairement. Par contre, encore une fois, dans les papiers de Radio-Canada aujourd'hui, on dit que c'est basé sur des années et des années d'études pour avoir un tramway. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on est rendu plus moderne? Je me pose la question avec point d'interrogation.
En effet,
quand
puis
même.
Je suis à la même place que toi. Je pense que le projet de tramway a été très mal géré et très mal amené. Mais là, on a refait une étude avec la Caisse de dépôt qui a redit c'est un tramway que ça prend avec un plan cité.
Que ce soit biaisé ou pas.
À un moment donné, là.
C'est plate, là. Mais on va m'avoir eu.
Ben, moi
là,
aussi.
Je te parle pas de mon vote. Je te parle, on va m'avoir eu de faire. OK, là, c'est assez.
Ouais, ouais.
On m'a tellement écœuré que je suis rendue dans la cour des citoyens qui sont au bout. J'ai pas le choix, c'est ma job.
Ben, t'es dans la cour des citoyens, puis je suis dans la même cour que toi de cette élection-ci ne repose pas sur le tramway.
Elle ne repose plus
c'est ça.
Sur le tramway.
Exactement. Même
parce
que
on m'a obligé à l'avaler, la pilule.
Oui.
Puis à un moment donné, tu dis tu choisis tes combats.
Mm-hmm.
Puis malheureusement, je ne suis pas en accord avec un parti qui ne propose rien en 2025 par rapport à un réseau de transport structurant. Je dis pas qu'il propose rien, on vient d'évoquer, mais c'est pas assez concret pour moi.
En effet.
Va pas assez vite. On perd déjà du temps. C'est déjà complexe. Imagine qu'on commence à creuser dans quelques années, puis on se rend compte que finalement, on tombe sur le tombeau de Champlain. On fait tout le temps la joke, mais c'est ça pareil.
Non, mais c'est ça quand même.
Puis ça nuit à nos générations futures qui, on le voit, sont en constante baisse à l'obtention de permis de conduire, mais on veut quand même être à la hauteur à Québec, puis on ne l'est pas. On ne l'est pas à la hauteur. Une heure entre Beauport et centre-ville, c'est toujours pas normal.
Exactement.
Puis c'est ça encore dans nos transports en commun. C'est la même chose, pas d'interconnexion. Puis je martèle ça.
On est à la même place, Pascal CV. Rapidement, Mathias, en une petite minute, le maire Marchand fait des promesses au niveau de son cadre financier aujourd'hui.
Oui, tous les partis sont sortis faire des promesses intéressantes, mais je peux pas être partout. Hein. Donc, on passe.
Mais voyons comment ça.
Ouais, je sais pas.
Il fait quoi, ce gars-là?
Ben oui,
il va juste à Respect citoyen. Bon,
Non, hey, mon Dieu.
Ça y est, couverture biaisée de boulevard. On envoie notre journaliste à Respect citoyen. On respecte pas Marchand.
Non, mais Bruno Marchand qui a sorti son cadre financier aujourd'hui. Puis dans ce cadre financier-là, en gros, il promet de garder la hausse des taxes en dessous de l'inflation tout au long de son prochain mandat. Aussi, on note une baisse du déficit de 21,1 millions d'ici 2029, donc pour le prochain mandat du maire Marchand. Du côté de sa mamade, on a fait une annonce pour la croissance économique, la relance économique de la ville de Québec. Ce qu'on prône surtout, c'est la création d'un hub IA, donc un pôle d'expertise qui permettrait de mettre d'avant différentes technologies d'intelligence artificielle, un forum économique annuel et un programme qu'on appelle Accélérer 100, qui serait un accompagnant personnalisé autour de 100 entreprises qu'on juge à fort potentiel dans la région de Québec.
Merci beaucoup, Mathias Turcotte. Toujours un plaisir de t'avoir en onde avec nous et merci pour cet excellent dossier encore une fois. Après la pause, on parle avec Gilles Levasseur, professeur en gestion et droit à l'Université d'Ottawa. On revient sur Donald Trump qui a dit « Ah ouais, vous mettez une publicité de Reagan? Paf! Plus 10 % puis je vous parle plus, méchant Canada! » Mais c'est correct, les Jays vont battre les Dodgers. OK, non, ça c'est juste moi personnellement. Donc, restez avec nous. On revient avec M. Levasseur après cette courte pause. Il est présentement 13h35. Vous êtes à l'écoute de l'émission On en jase. Pascal CV, toi, t'avais un prof dans le temps qui était vraiment cool. Hein?
Le prof dans la cause. Ouais, c'est ça, c'est le vin dans la cause qui faisait pogner le feu sur son crâne en chimie.
Hein? C'est une machine de guerre. Puis là, prof dans la cause, justement, c'est drôle parce qu'il vient de m'écrire pour me dire « Hey, je vous écoutais, puis vous parliez de la campagne électorale, puis je suis allé voter par anticipation. » Bon,
comment ça a été?
Je commencerai pas à dire pour qui le prof dans cause a voté, mais il m'a juste dit « Ouf, quelle campagne trop longue et lamentable. » Il a complètement raison.
Ah oui, c'est une campagne qui se meurt. Ouais. Je veux dire, on veut encore suivre les points chauds, puis on vient qu'à être tanné nous-mêmes.
Ben, c'est ça. Mais là, on va entendre le prof dans cause à soir parce que c'est son deuxième podcast de sa série de 5 classes à part.
Hey, honnêtement, là, c'est pas parce qu'on l'apprécie. À la base, c'est vraiment un bon podcast.
Vraiment.
C'est une heure extrêmement pertinente sur l'éducation en général. Chaque semaine, à 19h le lundi, on explore les grands enjeux de l'éducation d'aujourd'hui et de demain. Puis moi, je trouve ça le fun parce qu'on a des grands invités aussi. Et pour le deuxième épisode, c'est la gestion des comportements à l'école.
Wow.
On parle souvent des parents là, qui se mènent un peu en porte-étendard leur enfant roi et tout ça. Est-ce qu'on a encore le plein potentiel enseignant pour la gestion de la classe, pour être capable de gérer les comportements? Comment ça se passe directement dans l'établissement scolaire? Et il parle avec Karine Hamel, qui est psycho-éducatrice. Donc, nous, on a eu la chance de l'écouter avant qu'il soit diffusé ce soir. C'est sur les conséquences possibles, les rôles de l'équipe école, les intervenants communautaires, les mesures adaptées pour certains jeunes, le lien école-famille. C'est vraiment un genre de rassemblement qu'on a collectif sur les ondes de Boulevard 102.1 sans que ça soit plate dans les réunions de parents.
Ah, que ça va être intéressant. Donc, écoutez ça, 19h, prof d'en cause ce soir sur nos ondes.
Et merci à la Caisse des Jardins de l'éducation qui nous accompagne dans tout ça avec constance, engagement. C'est grâce à eux qu'on est capable de vous offrir le podcast.
Évidemment. Un grand merci à ce commanditaire. En ligne, on a Gilles Levasseur, professeur en gestion et droit à l'Université d'Ottawa. Monsieur Levasseur, comment allez-vous? Monsieur Levasseur, êtes-vous là? Est-ce qu'on a un petit problème technique?
Je te laisse peut-être regarder ça.
Ouais, veux-tu me faire quelques news? Exactement. Je vais tenter de le rappeler.
Oui, je vais faire le portrait de l'actualité de cet après-midi. Beaucoup de choses quand même à gérer. Entre autres, les déclarations de Doug Ford qui irritent Washington depuis des mois. C'est ce que relèvent des sources. Alors, Mark Carney qui affirme que les pourparlers qui progressaient jusqu'à la diffusion de la publicité ontarienne, qui a été l'épine dans le pied du Canada officiellement, est vraiment problématique. Donc, il y a des responsables canadiens qui ont affirmé avoir été pris de court la semaine dernière quand le président américain Donald Trump a annoncé qu'il mettait fin aux négociations commerciales avec le Canada. Négociations qui étaient fort difficiles à prime abord, mais avec l'attitude provocatrice du premier ministre Doug Ford qu'on décrit avec des propos virulents à l'endroit de Trump, bien, ça constituait à faire en sorte que tout le pays en souffre maintenant. Source d'irritation depuis un moment du côté de Washington, selon des sources de Radio-Canada. Alors, il y a des gens qui sont au fait des discussions qui ont révélé que les Américains avait averti les Canadiens depuis un bout que les commentaires du premier ministre de l'Ontario allaient poser problème et allaient probablement nuire. Et c'est le cas. Hein. Quand on voit que le pays doit être soudé des fois dans des portions économiques difficiles comme celle-là, eh bien, il faut en prendre en compte ce que Doug Ford faisait. Sinon, du côté de Longueuil, c'est un cas extrêmement tragique dont on parle depuis le début de la journée. Un nouveau-né qui est décédé officiellement après avoir été abandonné dans un abribus. Donc, il y a une femme de 33 ans qui a été arrêté. Le dossier progresse. C'est une personne d'intérêt qui a été arrêtée en lien avec cet abandon de nouveau-né. On a confirmé ça du côté de la police de Longueuil. Il s'agit du deuxième cas d'abandon d'enfant en l'espace de seulement 3 semaines dans le même secteur. Alors, il aurait été retrouvé malheureusement ce matin, rendu l'âme à l'hôpital. Et cette femme de 33 ans-là a été interpellée, arrêtée, c'est ce qu'on a indiqué comme porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Quand je vous dis que ça progresse, c'est que c'est à 6h30 là, qu'on a reçu un appel d'urgence et rapidement, là, on est capable de vous dire que malheureusement, le poupon est décédé. On a arrêté quelqu'un. Il y a eu, oui, manœuvre des réanimations, mais je vous le dis, c'est une histoire qui donne froid dans le dos. On n'a pas de comparution encore prévue pour l'instant parce que le drame a d'abord nécessité des soins physiques et psychologiques.
On a M. Levasseur au bout du fil, Pascal. M. Levasseur, comment allez-vous?
Bien, merci, vous.
Ben, ça va super bien. Monsieur Levasseur, est-ce que Donald Trump attendait juste un bon moment pour dire « Qu'est mon Canada, v'là 10 % de plus et on négocie plus » ou c'est Doug Ford qui lui a donné ce cadeau-là dans
ouais,
le témoin?
C'est une histoire de comme les drogues à la
c'est
frontière.
C'est ça, comme le fentanyl
réel?
Ou c'est réel?
Ben, disons que ce qui arrive, c'est que Monsieur Trump a pris l'occasion pour faire passer un message tant aux Canadiens qu'aux autres pays qui veulent faire la même chose. Ce qui arrive, c'est que Carney était proche d'une entente. Vous savez, on ne réalise pas, là, mais ça se négociait, ça aurait été fait d'ici une ou deux semaines, l'entente. Mais en jouant ce jeu-là, de mettre de la publicité, qui fait juste irriter une personne qui n'aime pas se faire mettre de côté ou se faire planter là, par les médias, ben, ça a amené cette réaction-là. Et le danger, c'est que ça va prendre peut-être 3-4 mois avant de repartir et de compléter la transaction. Puis c'est ça qui est triste, parce qu'on était bien parti. C'est fait là de façon à ne pas créer de turbulence. Puis c'est ça que la publicité a fait. Elle a créé ce mouvement-là qui fait en sorte que le type n'est pas capable d'en prendre. Et ce qu'il fait, c'est qu'il réagit très mal.
Malgré tout ça, on se demande encore si c'est réellement quelque chose qui a créé de la turbulence chez lui à un point où c'est dit « Ah, c'est assez de négociations avec le Canada ». Par contre, on apprend dans les dernières minutes du côté de Radio-Canada que ça fait un bout là, qu'il est irrité, en fait, des propos de Doug Ford. Est-ce que à ce moment-là, on peut se dire que le pays est cop pour un premier ministre? Est-ce qu'on doit plutôt se rallier de province en province quand ça arrive, ce genre de truc-là?
Mais ce qui arrive, c'est qu'au départ, Doug Ford voulait avoir une approche sévère contre les Américains.
Mm-hmm.
Parce que l'Ontario est très blessé par toute la question des tarifs. Vous savez, là, on ne réalise pas, mais ils perdent des usines. Ils perdent accès à plein de projets. Il y a plein d'entreprises qui ont décidé de quitter l'Ontario pour retourner aux États-Unis. Donc, l'Ontario va vraiment vivre la difficulté de toute cette histoire-là, de cette façon-là, des tarifs. Donc, lui a réagi dans une démarche, quoi, que c'est celle de dire on va aller avec les gants de boxe pour être capable de faire passer le message. Le problème, c'est qu'en jouant ce jeu-là, c'est toutes les autres provinces canadiennes, dont le Québec, qui vont écoper pour ce genre de discussion-là. Et le problème, c'est que M. Trump, c'est un type qui ne pardonne pas. Ça, ça fait partie de son style. Il va avoir bientôt un livre qui va sortir sur la relation Trump et son vice-président. Et il le traitait de terme « wimp », puis tous les termes à gauche pas à droite, parce que le gars ne voulait pas suivre Trump. Et c'est ça qui arrive, ce gars-là n'a aucune acceptation de gens qui vont contraire à ses valeurs. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça que Carney a bien saisi le dossier. Il disait « on va faire ça tranquillement, sans aucune publicité, sans aucune discussion, on garde ça secret, comme ça quand ça va être le temps, c'est M. Trump qui va être celui qui va annoncer le résultat et pas juste M. Carney. »
Maintenant, comment Mark Carney doit gérer Doug Ford après cet événement? Est-ce qu'il doit complètement mettre Ford à l'écart et s'assurer que ce dernier ne prenne plus la parole publiquement concernant cette guerre tarifaire?
Parce qu'il ne peut pas contrôler les comportements de Doug Ford, mais ce qui arrive, c'est que dans la négociation, il pourrait favoriser une province comme le Québec, par exemple, ou une autre province comme l'Alberta, au détriment de l'Ontario, si Doug Ford continue à jouer ce jeu-là. Parce qu'à un moment donné, on veut avoir une entente. Donc, on veut avoir...
Ouais, donc, il a beaucoup protégé le secteur automobile, mais là, il pourrait tenter de protéger l'aluminium ou le pétrole.
Exactement, ou l'acier. Vous comprenez? Donc là, on va se dire, bien, qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui est acceptable? Et c'est ça le danger. Parce que, voyez-vous, l'Ontario a toujours dominé l'infrastructure de la voiture au Canada. 95% de tout ce qui s'appelle voiture, c'est l'Ontario qui l'a. Donc là, ils viennent de perdre des gros jalons de leur industrie. Puis si les Américains le font, bien, les autres entreprises, comme par exemple les Japonais, comme les Allemands, vont suivre la même démarche. Et c'est ça qu'il ne veut pas. Donc, il essaie de faire un discours de crainte, de peur, pour démontrer que, bref, c'est la bonne chose de rester au Canada. Mais en faisant cela, on irrite quelqu'un. Puis là, ben, là, M. Carney va dire, écoutez, on va travailler avec des relations, par exemple, le pétrole, le pipeline. On va travailler, par exemple, tous les arrangements, par exemple, des produits, par exemple, laitiers. On est capable de faire des arrangements qui vont faire, ça va faire plaisir à M. Trump. C'est ça qu'il faut faire. Il faut... C'est triste à dire, mais jouer dans sa main pour être capable d'avoir ce qu'on veut.
OK, on est vraiment rendu là, selon vous, M. Levasseur. T'sais, vous êtes professeur en gestion en droit à l'Université d'Ottawa. Vous êtes vraiment rendu à vous dire, puis ça, écoute, on adhère si c'est votre façon de voir les choses, mais faut y manger dans la main parce que peu importe ce qu'on va faire, ce gars-là, c'est pas de lui montrer qu'on se tient droit, qu'il va faire en sorte qu'il va être conquis par nous pour vouloir discuter avec nous. C'est vraiment y aller en son sens.
Mais il y a une chose que je voulais juste vous dire. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un des rédacteurs de la première entente de libre-échange Canada-États-Unis. Et moi, je m'occupais du volet énergie. Et à l'époque, il y avait toutes sortes de règles qui limitaient l'accès au secteur pétrolier canadien. C'était toute la question de Petro-Canada, toute cette notion-là de la notion de prendre domaine du Canada. Parce qu'il y avait toutes les compagnies étrangères qui faisaient de l'exploration, de l'exploitation et la vente de pétrole. Mais bref, les Canadiens avaient rien. Alors, on avait développé cette approche-là. Mais quand est venu l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, à l'époque, c'était Brian Mulroney, avec le président américain qui a fait partie de la publicité, d'accord? Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les Américains ont dit, on est prêt à accepter chez vous que vous allez avoir un tribunal qui va gérer tout le conflit entre le Canada et les États-Unis, plutôt que d'aller devant les tribunaux. Mais en échange, voici ce que l'on veut. Et une des choses, c'était la libre ouverture de l'énergie. Donc, si on prend l'accord de libre-échange de 1987, ça a juste une page, l'entente, une page, parce qu'on a tout enlevé pour satisfaire ce volet-là américain pour avoir accès aux tribunaux qui règlent les conflits entre le Canada et les États-Unis. Donc, il faut jouer la même chose aujourd'hui, il faut faire la même chose, mais en fonction des dossiers d'aujourd'hui. Ça ne changera pas parce que les Américains à la table, ils arrivent, ils sont déjà tous préparés, ils sont armés pour gagner. Alors, toi, tu joues le jeu de savoir qu'est-ce que tu dois leur donner pour être capable d'aller chercher ce que toi, tu as besoin.
Alors, est-ce que vous voyez une similitude entre l'approche Mark Carney et l'approche Brian Mulroney qu'il avait à l'époque avec Ronald Reagan?
La réponse est oui. La différence, c'est que le président de l'époque n'est pas le même. Le président de l'époque était quelqu'un qui était capable de socialiser parce que une des choses qui était la force de M. Mulroney, c'est un Irlandais. Il savait socialiser, il savait s'amuser, et puis il savait comment fêter avec le président américain de l'époque. Tandis qu'aujourd'hui, M. Trump, c'est pas le même style. C'est un type qui est un bagarreur, qui aime négocier, qui aime ça écraser. Donc, c'est un autre style. Donc, c'est pour ça que Mark Carney joue le jeu qu'il doit jouer, et il fait bien de jouer ce jeu-là. Parce que si tu veux jouer gros, ben, tu n'auras pas le poids pour être capable de faire face aux Américains. Donc, il travaille le système, travaille la politique, travaille les ententes, puis il essaie de faire des compromis sur ce qui est possible, tout en ayant ce qu'il recherche vraiment, un système qui va être unifié sur la question des tarifs. Puis c'est ça la force de Carney. Le problème, il ne faut pas arriver à ajouter de l'eau sur le feu, de l'huile sur le feu pour créer que peut-être le gars va toujours être déçu, puis il nous envoie promener parce qu'il peut le faire, il n'y a pas de problème.
Alors, en s'assoyant, on devient plus fort face à Trump, on devient plus mature. C'est ce qu'il faut voir comme différence au lieu de japper plus fort que lui. Mais là, on se retourne vers la Chine parce qu'on se dit, OK, là, ça fonctionne vraiment pas avec les États-Unis. À chaque fois, on se tire dans le pied. On voit comment le fait de développer des partenariats avec la Chine, qui n'était pas nécessairement la plus intéressante depuis quelques années.
Non, parce que ce qu'on oublie, là, quand on a créé l'OMC, c'était pour essayer de libéraliser le commerce. On a permis au début des années 90 d'ouvrir le marché de l'OMC à la Chine pour qu'elle ne soit pas tenue à toutes ces normes-là puis qu'elle soit capable d'aller chercher la clause de la nation la plus favorisée. Donc, on a été chercher des mécanismes qui ont aidé la Chine à devenir ce qu'elle est aujourd'hui.
Quand vous parlez de l'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Hein? C'est juste pour le placer pour les auditeurs.
C'est ça. Absolument, madame. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la Chine, aujourd'hui, elle a été chercher 56 des 59 métaux les plus précieux au monde et elle domine ces marchés-là pour faire la nouvelle technologie. Et ce qu'on voit apparaître, c'est qu'ils font énormément de robots, énormément de systèmes tout informatisés pour être capables de remplacer la main-d'œuvre. Sont encore plus performants et font encore plus de revenus à des coûts beaucoup plus bas. C'est pour ça que, par exemple, les voitures chinoises, celles qu'on voit apparaître là, sur les voitures électriques, sont à des prix tellement ridicules par rapport à ce que nous on produit, parce qu'il n'y a plus de ressources humaines. Ce sont des machines et des robots qui font tout cela. Et le président de Ford a justement fait un discours là-dessus la semaine passée, indiquant qu'on est tellement en retard par rapport à la technologie que vivent les Chinois, que si on ne bouge pas rapidement, on va perdre le dessus sur ce qu'on contrôle d'autres comme société. Donc, la Chine essaie de dominer le monde commercial à travers les exportations, mais aussi maîtriser toute la péninsule de l'Asie du Sud-Est, là où est-ce qu'est M. Carney actuellement. Donc, ce qui fait en sorte qu'il faut faire attention de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, mais de travailler à gauche, pas à droite. Pendant 10 années, moi, j'enseignais en Chine des cours de finance. pour être capable de s'appeler les CFA. C'est la plus haute désignation qu'on a en finance dans le monde. C'est une désignation américaine. Bien, les Chinois, là, c'était tout organisé, tout structuré. Les étudiants arrivaient, puis ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire, pourquoi ils devaient faire ça, puis où est-ce qu'ils s'en allaient. C'était tout organisé parce qu'eux autres, dans leur tête, c'était déjà planifié qu'ils voulaient dominer les secteurs économiques, financiers et technologiques depuis plus de 30 ans. Donc, c'est pas une nouveauté. C'est juste que nous, on ne l'a pas vu venir, on ne s'est pas préparé de sorte qu'aujourd'hui, bien, on voit la différence dans ce qui se passe dans certains milieux économiques et financiers, dont ce que fait la Chine.
Monsieur Levasseur, on se prend un engagement, nous deux, avec Pascal, ça okay. va nous trois. On va se faire un micro la semaine prochaine sur votre expérience chinoise. Je veux en savoir plus là-dessus. Okay. Je veux savoir comment la Chine s'est préparée puis pourquoi on est rendu aussi dépendant d'eux.
C'est aussi très important d'ajouter.
Allez-y donc.
Comment la Chine est allée chercher les cerveaux étrangers pour se bâtir?
Parfait, on fait ça la semaine prochaine. Je sais que le côté chinois est toujours intéressé, Pascal, c'est vous. Et là, j'ai
vu mes yeux.
Les yeux ouvrir grands comme le studio de radio, mais j'ai dit, on peut pas régler ça en 3 minutes en fin d'émission. Donc, on refait ça la semaine prochaine. Ça va, M. Levasseur?
Excellent, on se reparle là-dessus.
Excellent, puis je retiens une chose, c'est que Brian Mulroney puis Ronald Reagan, finalement, ils ont signé cette entente-là autour d'une bière à taverne.
Ah, monsieur, c'est pire que ça, ils chantaient ensemble, c'est ça qu'ils chantaient des chansons irlandaises.
Ah, j'adore ce genre de son-là, on va en parler aussi dans notre prochain micro.
D'accord, au revoir.
Merci, M. Levasseur. Au revoir. Gilles Levasseur est professeur en gestion et droit à l'Université d'Ottawa. Il a déjà participé à la signature d'une entente Canada-États-Unis, une entente économique. Il a déjà enseigné finance en Chine. Faut reparler à cet homme-là.
Oui, moi, ça, là, je trouve que si vous pensez que ce n'est pas d'actualité, on est encore plus dans l'actualité que ce dont on vient de discuter.
C'est clair. Pascal Cévé, il y a plein de partisans de football à Québec présentement qui sont heureux parce qu'écoute bien ça. He's throwing for the end zone and back there the catch is made. Keyshawn Booty has six. Tu sais, dans le temps, il y avait plein de monde avec le numéro 12 de Tom Brady. Oui. Ça envahissait la ville de Québec. Mais là, savais-tu que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont 5 victoires consécutives?
Mais je suis vraiment surprise sur cette équipe-là qui était, on s'entend-tu, en reconstruction totale. Ben, on se demandait, c'était-tu Brady ou Belichick, le cerveau de l'affaire? Puis on avait vu un Belichick un peu s'effondrer dans les dernières années, avoir de la difficulté à piloter l'équipe. On n'est pas là, là, en début de saison.
Là, c'est Mike Vrabel, l'ancien secondaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui a été entraîneur à Tennessee. Également. Un gagnant du Super Bowl, de plusieurs Super Bowls avec Tom Brady qui est rendu l'entraîneur.
Il fait-tu la différence, tu penses, ou c'est
juste
l'arrivée d'un
défensivement, les Patriots jouent vraiment mieux. C'est un maître défensif.
C'est pas la chance du débutant à l'intérieur des Pats.
Ouais. Et là, Drake May, qui a été le troisième choix du repêchage il y a de ça 2 ans, derrière Caleb Williams, derrière Jaden Daniels, bien, déjà 15 passes de tuer depuis le début de la saison, seulement 3 interceptions et 2026 verges. Donc, bref, les partisans des Pats recommencent à rêver, Pascal CV. Les gens trippent là-bas.
C'est une super belle saison de football.
Ah, oui.
Moi, ceux qui me font tripper par-dessus tout, étrangement, c'est les Lions.
Oui, les Lions qui jouent très bien offensivement. Est-ce qu'on va vivre ces belles émotions-là ce soir, Pascal?
Ben, j'ose croire.
Regarde. Tout ça.
J'ose croire.
Les Jays sont à visite à Los Angeles pour affronter les Dodgers. 3e match de la série, c'est à 20h. Le vétéran de 41 ans, Max Scherzer, sera sur la butte pour les Jays. Scherzer a déjà gagné la série mondiale avec les Nationals de Washington.
T'as-tu vu le gérant des Dodgers qui s'est mis un peu à dos le gouvernement canadien?
Hey non, parle-moi donc de
ça. Il a critiqué à tort l'entraîneur-chef des Dodgers, Dave Roberts, qui n'a pas trop apprécié le voyage de retour vers Los Angeles en fin de semaine. Son équipe a été soumise, vous savez, à de longs délais, puis lui a décidé qu'il en parlait. Fait que c'est plus qu'un match de baseball ce soir. On va dire une affaire politique là-dedans.
Mais hein, c'est le Canada contre les États-Unis. Donald Trump ne veut plus parler à notre premier ministre, mais nous autres, on va vous abattre à coups de circuit.
On va essayer ça, voir si on va faire comme la Coupe des Nations.
Go Canada, go! Pascal, on se parle demain à midi?
Sans faute.
Toujours un plaisir de faire de la radio avec toi. C'est le retour de Gravel qui suit avec Denis, Véro et Audrey. Par la suite, Marceau du soir. Et ne manquez pas le podcast Classe à part avec Sylvain dans cause à compter de 19h. Merci d'avoir été sur nos ondes. À demain, guys!